Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop des héros. Bonjour à tous et bienvenue sur le 217e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 16 octobre et au programme de ce soir, les nouveautés VO de la semaine avec entre autres la fin de Death of Wolverine, Original Sin qui revient pour un annual, la suite d'Axis ou le début de Logan Legacy. Nous parlerons en indé d'Alice Cooper, de Prometheus, de Evil Within qui démarre en comics en même temps que le jeu. Enfin, dans la partie DC, nous reviendrons sur Batman Eternal, Batman et Robin, Teen Titans ou encore le Justice League et la sortie de la semaine, le Trinity of Sin numéro 1. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Flo.
Oui, coucou, salut, tu m'as pris court, désolé.
Mais quel coucou, dis donc.
Ouais, j'étais en train de faire ce qu'on se disait juste avant la synchro des montres, et du coup j'étais un peu occupé, tu comprends, Steve.
Mister René Venier.
Eh ben, quel coucou, dis donc, moi aussi. Avec coucou.
Et Bruno.
Ah, coucou à toutes et à tous.
En fait, c'est simple, hein, j'ai pourtant pris l'ordre qui était sur le conducteur. Hein. J'ai pas cherché plus loin parce que je suis en manque total d'imagination, mais bon. Allez, on va démarrer les sorties de la semaine parce qu'on a un programme énormément chargé. C'est pas moins de 20 reviews que vous aurez ce soir. Et on démarre avec Marvel, la fin tant attendue de Death of Wolverine, le numéro 4. Mister René Bunny meurt-il ?
Mister René Bunny meurt-il ? Non, je vais très bien. Je me porte bien. Merci pour moi. Charles Soule est au scénario donc de ce comic et Steve McNiven est au dessin et on a un ancrage de G. Liston. Et effectivement, notre ami Logan va à la rencontre de Cornelius. Alors Cornelius, c'est pas le précepteur de Babar, hein, c'est l'autre.
Oh putain. Et franchement, j'ai juste envie de te dire un truc. Va te faire foutre. Non. Voilà.
Moi, si, mais quand j'étais petit et que je lisais Wolverine, à chaque fois que j'entendais parler de Cornelius, je l'imaginais comme ça avec une vieille trompe et tout. Voilà. Souvenir de jeunesse, hein. Parce que Cornelius, faut dire que ça faisait des années qu'on l'avait pas vu, hein. On se demandait même s'il était encore en vie, ce monsieur. Donc Cornelius,
mec,
c'est au fait
Tu pourrais quand même avoir des références un peu plus intéressantes, comme la planète des singes ou quoi que ce soit. Non, tu vas nous chercher Babar, quoi.
Ah ouais, Cornelius dans Babar. Moi, il m'a marqué, hein. Babar, le roi des éléphants. Enfin tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc Cornelius c'était le souvenez-vous, hein, le savant un peu fou qui avait créé Wolverine. Et donc Wolverine va à sa rencontre pour régler ses comptes. Et on imagine bien que ça va pas très bien tourner pour Wolverine et pour tout le reste, hein, pour tout le monde. Je peux pas raconter grand chose puisque finalement si je vous raconte ce qui se passe dans ce comic, je vous raconte la manière dont il va disparaître. Et
je vais quand même me permettre de te corriger juste un truc. Cornelius n'a pas créé Wolverine, hein. Il a juste créé le projet Arme X et a donné l'adamantium à Wolverine.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai.
On sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont qu'une toute petite culture comics parce qu'ils débutent juste et qui écoutent, ils pourraient avoir des mauvaises.
C'est vrai que Wolverine est déjà Wolverine, mais disons que voilà, c'est grâce à lui qu'il a le corps totalement. Enfin, il a son squelette d'adamantium et que voilà, c'est vraiment le mec à la tête du projet Arme X.
Ouais. D'ailleurs, on peut au niveau de l'intrigue quand même rajouter que Cornelius essaye de perfectionner le programme Weapon X, ce qu'il avait fait, il pensait que c'était un échec. Et donc là, le pitch, ça tourne autour de justement recréer de nouveaux soldats. Et donc Wolverine va se mêler à ça et va régler ses comptes avec Cornelius. Il va essayer.
Il essaye de trouver la rédemption un petit peu, enfin d'une bien étrange manière. Et c'est discutable, remarque. Est-ce que Wolverine était Wolverine avant d'avoir l'adamantium? Est-ce qu'il n'était pas tout simplement Logan? Bon, on peut tergiverser longtemps là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je dirais une belle fin à ce personnage. Alors, Peut-être juste mon dernier regret, c'est que, enfin mon seul regret, je veux dire, c'est que sur l'une des dernières pages où on voit un petit peu des moments importants de sa vie, je l'ai pas trouvé. Je pense que ça aurait mérité vraiment une pleine double page avec plus de choses, quoi. Là, je trouvais que bon, ils étaient pas spécialement inspirés. J'ai bien aimé cette page, mais
en même temps, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites dans toute la mini sur sa vie, sur des moments de son histoire,
mais
etc.
Là, c'est quand même le dernier moment, quoi. C'est le moment ultime. Oh, mais j'ai trouvé la mise en scène intéressante, mais
toute la mini n'est qu'une, enfin, on va dire un espèce de gros mémorabilia de la vie de Wolverine. On a tous les éléments qui ont marqué dans la vie de Wolverine. On a autant Viper qu'on a Mystique qui passe, déguisée certes, mais elle passe. On a Kitty Pryde, on a le Japon, on a tout un tas de choses.
Ouais, ben enfin en tout cas.
Ça a évité de faire trop de répétitions justement.
Bah ouais. Enfin moi je trouve que l'une de ces dernières pages aurait mérité un peu plus de choses. Mais bon, enfin en tout cas c'est une belle fin, voilà. C'est logique. Enfin, ça va vraiment au bout de la logique de Charles Soule, j'allais dire Dark Soule. Charles Soule. Voilà. Et c'est un bon comic, une bonne mini, ça augure de bonnes choses pour la suite, même si le personnage n'est plus là du coup. Hein. Mais de toute façon, on se doute bien que d'ici un an, il devrait revenir en pleine forme.
Ah bah ça nous a été dit, hein, pas avant au moins 2016.
Ouais.
Ouais, ouais, bon, enfin bon, de toute façon, ça sera vite, vite arrivé.
Ce qui est bien avec cette mini, c'est que, bon, voilà, c'était en 4 numéros, on a un début, une fin, et ça n'a pas pris trop de temps pour s'éparpiller, c'est quand même assez condensé, et on s'ennuie pas. Moi, j'ai relu les 4 d'affilée aussi, avant de lire le numéro 4, et voilà, ça fait un bon tout, et c'est vrai que c'est assez touchant, la fin, et j'ai trouvé qu'elle est assez belle, la réaction de Wolverine, ce qui lui arrive. Et donc ça fait une belle fin, et donc ça fait un bel arc pour ce personnage. Donc voilà, graphiquement c'est très joli. Le fait de faire revenir le personnage de Cornelius, c'était une bonne idée. Et donc voilà, donc pour moi c'est vraiment une bonne lecture, une réussite, hein, ce Death of Wolverine pour Marvel.
Et à mon avis, on aura des statues comme on la voit à la fin, représentant ce qu'on voit, quoi. Je vais pas dire la page finale, mais c'est à mon avis, on aura ça, quoi.
Je suis entièrement d'accord, la mini-série est très très bonne. Charles Soule nous prouve qu'avec cette mini, en 4 épisodes, il a su faire du neuf avec que du vieux, en fait.
Ouais, c'est vrai, ça.
Je veux dire, il n'y a rien de novateur dans ce truc-là. Il a utilisé tous les éléments, enfin, en tout cas, la majeure partie des éléments qui ont fait Wolverine à travers l'histoire, et les a bien utilisés. Donc, il n'y a absolument rien de neuf dedans. Mais c'est bien écrit, c'est bien raconté, et cette fin est cynique au possible. Et franchement, c'est un comic super plaisant, quoi.
Ouais. Et rien que pour ce plan où on voit Wolverine sur les premières pages débarquer avec ses griffes, voilà, qu'il a fabriquées lui-même et tout, c'est assez stylé.
Il y a quand même un gros côté.
C'est ouais. Super ingénieux.
Ouais. Il y a un gros côté Old Man Logan au début quand il débarque.
Un petit peu, ouais. C'est McNiven. Oh, ouais,
McNiven, quoi. McNiven s'est fait plaisir avec la Jeep, le désert. Enfin voilà.
Ça.
Quoi.
C'est ça. Franchement, gros clin d'œil. Reste que oui, c'est beaucoup mieux comme mort du héros que la disparition de Spider-Man, par exemple. Souvenez-vous. Voilà, c'est beaucoup mieux géré, quoi.
Ça n'a jamais arrivé, monsieur.
si, c'est arrivé, malheureusement.
Tu as déjà lu 1984 ?
Je
parle pas de 85 de Millar.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais
oui,
pareil,
oui.
Je vais réécrire l'histoire. Moi, ça n'est jamais arrivé. Voilà, c'est tout. Non, franchement, un gros bail, hein, pour ce numéro et pour l'ensemble de la mini-série, évidemment.
Oui, pareil. Un bon gros bail. C'est vraiment un bon événement. C'est un bon événement. Ça fait bizarre de dire ça pour la mort de quelqu'un, mais.
L'événement n'est d'ailleurs pas fini. On va y revenir tout à l'heure. On va continuer avec un autre événement. Il s'agit d'Original Sin qui, en fait, n'est pas terminé. On y croyait, mais en fait, non. Hein. Il s'agit d'un annual qui sort. Parce que c'est vrai que, pour des mini-séries, faire des annuals, c'est monnaie courante chez Marvel maintenant.
Et oui, donc ça continue, Original Sin. Donc, ça va développer un petit peu tout ce qui concernait les personnages qui protégeaient la Terre avant que Nick Fury reprenne le flambeau. C'est écrit par Jason Latour avec au dessin Ennis Cizik. C'est un numéro assez intéressant. Voilà, si vous avez accepté ce postulat que il y a un organisme qui gère un petit peu toutes les menaces extérieures et que aucune personne sur Terre n'est au courant, mis à part voilà,
je n'accepte pas.
Personne. Voilà, là, ça va vraiment revenir sur le personnage de McCord et le personnage de Stafford, qui étaient les deux protecteurs de la Terre avant, et on va les voir dans l'espace, essayer de sauver la Terre. C'est très old school, un peu comme comics. Il y a des scènes dans les années 40 qui sont assez bien retranscrites, et assez badass aussi. Il y a un petit côté Star Wars, j'ai trouvé, dans la scène finale, par exemple. Donc c'est une bonne façon de développer un petit peu cet univers et d'enrichir justement l'expérience d'Original Sin. Alors après, si vous n'avez pas aimé Original Sin, c'est clair que ça sert à rien de vous replonger dedans encore avec ce numéro. Mais au contraire, si la mini-série Original Sin vous a plu, allez-y, vous serez pas déçus, puisque on apprend deux trois petites choses assez intéressantes, et tout particulièrement aussi sur les différents life models d'école de Decoy de Nick Fury, depuis quand il les utilise et tout. Il y a des petites choses comme ça qui sont assez pertinente. Et donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé ce numéro, donc je dirais que c'est un gros check-it et un bail pour les gros fans d'Original Sin.
Mais tu vas garder la parole. Bah non, tu vas pas garder la parole, c'est moi, pardon. Oh là, je suis perdu sur mon conducteur. On va passer au gros événement en cours. Il s'agit de Axis numéro 2, Avengers and X-Men Axis. Le deuxième épisode, semaine après le premier, puisque c'est un événement quasiment hebdo. Les super-héros étaient dans la merde à la fin du premier, clairement, puisque le Red Onslaught sortait deux énormes sentinelles sorties de la tête de Tony Stark, enfin en tout cas acquis grâce aux connaissances de Tony Stark qui nous a fait son Bruce Wayne avec des espèces de dossiers sur tous les super-héros. Et donc des dossiers sur comment les battre surtout. Et donc ces deux sentinelles sont capables de défaire n'importe quel super-héros. Et donc ça va être juste une énorme baston sur comment essayer de s'en sortir face à des sentinelles qui ont déjà à peu près toutes les réponses. Mmh. En gros, des sentinelles spéciales Avengers, finalement.
Ouais.
Ni plus ni moins.
Et qui sont très efficaces.
Qui sont très efficaces. Qui ont des couleurs à la Daredevil, d'ailleurs, j'ai pas très bien compris. y aurait-il un message caché? Le salut viendra d'une très bonne idée. De la part de Tony Stark, il s'agit de Magneto, puisque Magneto n'est pas un super-héros. Évidemment, donc, les Sentinelles ne le connaissent pas. Et leur perte viendra d'un petit con nommé Nova. Voilà. Voilà. Alors, est-ce un message de Rick Remender qui dit que ce Nova est pourri? Voilà. Moi, j'ai décidé de l'interpréter de cette façon.
Ouais, moi aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la scène avec Nova, ça me fait marrer, parce que c'est vraiment genre le mec qui vient foutre la merde, quoi.
Ils allaient s'en sortir, hein.
Bien huilé, ouais, exactement. Le plan était très malin, en plus.
Juste un truc que je comprends pas. Magneto, c'est pas un héros, d'accord, mais donc du coup, c'est pas un héros, Tony Stark n'a absolument rien prévu pour le contrer, quoi.
Tony Stark, c'était à l'époque de Civil War, hein. C'est bien expliqué qu'il avait imaginé des moyens de défaire chaque héros. Mm-hmm. Et envisageant Magneto comme un super vilain, il n'avait jamais imaginé que Magneto puisse un jour faire partie du camp des gentils.
C'était déjà arrivé, en plus.
C'est comme ça dans le comic, hein. Je sais que c'est déjà arrivé, mais
je pointe les petits problèmes.
En tout cas, dans la tête de Tony Stark, rappelle-toi qu'il était dirigeant de l'école Xavier à une époque où les X-Men étaient quand même sacrément en marge.
Après, c'est pas vraiment le fait que Magneto était pas dans les fichiers de Iron Man, c'est plus le fait qu'Iron Man n'a jamais pensé que Magneto agirait en même temps que les Avengers dans un même but. C'est-à-dire que du coup, c'est là, ils peuvent pas, les Sentinelles, elles do not compute, quoi, elles comprennent pas. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez malin. Et...
Oh, bah si elles do not compute pas, alors forcément. Hein. J'ai rien dit.
Dans ce comic, tout va aller de mal en pis au fil des pages, quoi. On a des très bons moments, des bons build-up de personnages, des bons tandems, etc. Des moments qu'on a tous eu envie de voir, enfin, ce qu'on imagine d'un event, en fait, d'un event classique avec des héros qui font un tandem ou qui se retrouvent. Avec les histoires actuellement en cours qui font que certains héros se déchirent les uns les autres, genre Havok et Cyclope, ou même d'autres personnages, hein, vous verrez ça à la lecture du comic. Et d'ailleurs, un petit un petit point malin de Rick Remender. Il y a une scène assez marrante où on a Avoc qui pense ouais, on a réussi à unir tout le monde, les Avengers, les X-Men et les Inhumains. Qui essaie de replacer quand même que la com de Marvel. Attention, les Inhumains, ils comptent maintenant, oui, vraiment.
Il y a une petite Médusa à un moment qu'on voit. Mais...
Le mec essaye. En plus, le mec fait vraiment le taf. Il essaye de faire le taf de Marvel, quoi. Les Inhumains, faut pas les oublier, ils sont là, hein, sans déconner. Hein. Ça m'a fait rire, quoi. Et bah, tout va aller de pire en pire. Et d'ailleurs, j'ai une idée de ce qui se passe parce que franchement, il reste plus personne là. Il reste plus personne. Et à la fin de cet épisode, on commence à comprendre pourquoi la fameuse inversion qui va venir.
Ouais. Oui, et d'ailleurs, il y a même une fausse piste puisqu'à un moment, il y a dans le plot, on a l'impression qu'on va comprendre comment va se passer l'inversion. Via justement le plan de Tony Stark et peut-être que ça aurait pu mal se passer et finalement c'est complètement part sur autre chose et je trouvais la fin assez maligne, une fin qui fait écho aux épisodes de la semaine dans Loki et dans Magneto.
Oui, Magneto. Donc, 11 hein, notamment.
Voilà.
Mais, et Loki, Agent of Asgard numéro 7.
Voilà, après côté dessin, c'est du Adam Kubert assez sympathique, c'est pas,
voilà. Ça pas
renversant,
pas de briques,
mais... c'est pas renversant mais plutôt efficace et chaque héros a quand même droit à sa petite scène assez sympathique et on a une belle splash page à la fin du comics qui est assez réussie quand même. Donc bon, ça fait un début d'event quand même assez rythmé, on rentre tout de suite dans l'action, il n'y a pas de mise en place chiante et
oui,
pour l'instant je suis assez ravi par ce début d'histoire.
Moi, j'aime beaucoup aussi. J'avais très peur. Hein. Comme je le disais la semaine dernière, j'avais très peur de ce truc-là. Et franchement, moi, je passe un bon moment. J'en demande pas plus. Je passe un bon moment. Ça pète. Je m'amuse à essayer de chercher des petites pistes, à essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que honnêtement, le sort des héros à la fin de cet épisode-là, d'ailleurs, qui il reste ?
Oui, bah, voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Voilà, c'est...
J'ai une idée que je ne peux pas partager ici, mais je peux vous donner des pistes sur ce à quoi j'ai pensé. Rick Remender connaît bien la continuité, il l'a montré, il réutilise des éléments de la continuité ancienne, des années 90, etc. Je pense que ça va venir de là, mais je peux me tromper, j'en sais rien, je suis vraiment très cryptique, vraiment, c'est que je veux pas tout dévoiler, on a déjà dit beaucoup, je veux vraiment pas tout dévoiler. Mais voilà, je pense savoir ce qui arrive aux héros, et peut-être pourquoi cette inversion aussi. Après, est-ce que je vais pas aller sur une fausse piste ? En tout cas, j'ai hâte de lire le 3 et c'est ce qui me, enfin, ça me fait plaisir, quoi, d'avoir cette envie d'aller voir la suite, quoi, et de savoir que ça sort la semaine prochaine, c'est cool.
Ouais, ça c'est plutôt cool. Donc on a à peu près 3 numéros par mois. Fin décembre, normalement, ce sera fini Axis. Donc oui, c'est quand même assez rythmé. Donc pour moi aussi, bonne surprise et c'est un bon bail.
Un bail aussi pour moi. Il y a pas de souci. Nous continuons avec, on en parlait tout à l'heure, la suite de Death of Wolverine, de Logan Legacy. Bruno, tu as lu le premier épisode ?
Oui, c'est écrit par Charles Soule avec Oliver Nome au dessin. Et donc c'est à lire plutôt après avoir lu Death of Wolverine 4, puisqu'en fait on va s'intéresser à des personnes qui justement ont été créées par le nouveau programme Weapon X. Des personnes assez mystérieuses qui essayent de rassembler plusieurs anciens ennemis de Wolverine, ennemis et amis, dont par exemple X-23, Sabretooth, Lady Deathstrike et compagnie, qui se retrouvent capturés, emprisonnés dans une salle un petit peu étrange dans laquelle ils peuvent pas s'échapper. Et en fait, on a une narration un petit peu teaser en fait, c'est-à-dire que chaque personnage, avant d'arriver dans cette prison et d'avoir été capturé par les méchants, a vécu une petite aventure. On en a un petit aperçu et les prochains numéros vont revenir en détail sur ce qui leur est arrivé et comment ils en sont arrivés dans cette situation-là en fait. Donc c'est comme un numéro alpha et après on va avoir la suite, plus d'explications après. Bon, il y avait 2-3 petites choses que j'ai pas trouvé de top au niveau de l'histoire. Avec, on a un personnage assez mystérieux avec une capuche. Là, j'y ai pas cru une seule seconde et j'ai vu venir le truc à 3000 km en avance, quoi. Mais voilà. Après, j'ai trouvé la lecture agréable, mais alors par contre, j'ai eu mal aux yeux parce que c'est vraiment pas beau. C'est très très moche et au niveau du design, ça manque un peu d'originalité puisque l'un des grands méchants qu'on découvre dans la dernière page, c'est carrément un swipe d'un personnage de chez DC Comics. C'était hyper abusé, quoi. Donc je suis mitigé quand même parce que c'est intéressant scénaristiquement, mais c'est super moche et pas très inspiré au niveau du design.
Voilà. Ouais. Ouais, je l'ai lu aussi. Vous allez me dire, c'est débile, j'ai pas lu Death of Wolverine. Effectivement, c'est débile. Mais je tenais juste à donner mon avis. Je me doute bien, en fait, dans Death of Wolverine, j'avais entendu les histoires avec Cornelius et tout, donc bon, je m'attendais un petit peu à la fin. J'aurais quand même dû lire, je pense, Death of Wolverine 4 au moins.
Mais ouais, c'est mieux quand même.
J'ai trouvé ça très, très mécanique. Enfin, ouais, c'est ça, c'est très mécanique comme construction d'histoire, quoi. C'est pas du tout original et c'est pas très organique, quoi, la manière de constituer ce genre de numéro alpha qui ensuite va distribuer ses histoires dans ces différents numéros de Logan Legacy. C'est un peu chiantos, quoi. Un peu chiantos, bah, oui.
Le truc, c'est qu'en plus, à la lueur, je trouve, de l'annonce qu'on va avoir une série hebdo sur Wolverine en janvier, ça fait peut-être un peu trop, quoi. À la rigueur, il aurait pu garder ses cartouches pour cette série hebdo et pas déjà nous lancer sur des mini-séries comme The Logan Legacy. Voilà, mais bon.
Ouais, je pense que Charles Saul, quand il a écrit ça, il avait pris un chiantos juste avant. Et du coup, voilà. Non, mais c'est pas très très bien écrit, je trouve. Le personnage de la capuche, j'ai trouvé ça abusé. C'est vraiment Marvel, quoi. Enfin bref. Effectivement, le vilain, c'est pas possible. Il est pas du tout original. Enfin, son look. Après, c'est moche. Oui, c'est moche. Disons que c'est compétent. Le mec sait dessiner, mais c'est pas du tout adapté. Et c'est c'est pas du tout adapté. Mais sinon, c'est un dessinateur compétent. Il fait pas des choses. LED,
non,
mais
non,
ça va pas là-dessus, quoi.
Disons que t'enchaînes le numéro de McNiven et puis ça, voilà, quoi. C'est bizarre.
C'est un peu cartoony, bizarre. Enfin, c'est un peu cartoony, mais ça va pas du tout dans le ton. J'ai l'impression je sais pas d'où ils ont sorti ce dessinateur, mais c'est pour un truc qui est censé aussi être quand même la continuation, quand même, de Death of Wolverine. Ils auraient pu trouver un peu mieux, quoi. Donc j'ai pas été super convaincu, moi.
Bon, mon bilan, c'est moyen, un tout petit check-it, voilà.
Oui, moi aussi, petit check-it, et puis bravo Charles Saul, hein, maintenant, d'être devenu exclusif Marvel. Voilà, écris des merdes, je t'en prie.
Non, tu
me donneras raison comme ça. Non, je suis dégoûté qu'il quitte d'ici, alors je m'en fous.
Ouais, voilà. Enfin, apparemment, c'est quand même la première merde qu'il écrit depuis qu'il est chez Marvel, puisque quand même, on a eu Death of Wolverine.
Mais oui, je sais, j'aime bien.
C'est
en plus
pas vraiment une merde. En plus.
Et on a Inhuman aussi, n'oublions pas Inhuman, hein, qu'il écrit quand même.
Qui est très bien.
Et ben, je voudrais qu'il commence à écrire des merdes juste pour me donner raison.
On va passer à Mr. René Bunny à nouveau, puisqu'il va nous parler du Spider-Man 2099 numéro 5.
Par Peter David au scénario et Rick Leonardi au dessin.
La classe, le tandem se reforme.
Et c'est une catastrophe. Rick Leonardi, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est une catastrophe. C'est moche.
Je vais jeter un œil pendant que tu en parles.
Mais alors là, vraiment, au fait, il donne une nouvelle définition au terme moche avec cet épisode. Même moi, pourtant je dessine comme un pied, hein, je dessine super mal, Superman. Super mal. Je suis même traumatisé. Oui, vous ne le savez pas encore, je dessine Superman à partir du prochain numéro.
À l'audio, c'est vachement bien.
Oui.
Essayez de deviner au coup de crayon s'il dessine la cape ou les jambes.
Non, mais sérieusement. Non, c'est moche. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Il a un petit peu perdu de son coup de crayon.
Le coup de crayon très carré, très caractéristique de Leonardi, quoi.
Ouais, non, là il y a vraiment un problème, quoi.
Alors,
sur
est-ce que ça viendrait de l'ancrage?
Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a par exemple une case où donc Miguel O'Hara va dans un ascenseur, Liz Allan est devant l'ascenseur, et alors je ne sais pas ce qui lui arrive. Liz Allan, il y a sa main, enfin il y a une seconde main qui lui pousse sur l'épaule. Elle se transforme en mutante, enfin je ne sais pas, il y a des personnages comme ça qui sont complètement déformés sur certaines cases. On a l'impression que c'est comme quand on mettait un film et qu'il n'y avait pas l'antenne, enfin que ça déconnait à l'époque, quand il y avait un orage, etc., il y a longtemps, quoi. Donc tous les personnages sont déformés à l'écran brusquement, enfin voilà, c'est moche, quoi.
J'essaie de trouver cette fameuse case.
Ouais.
Ah oui, elle a le bras derrière l'épaule, ah oui.
Oui, et je ne sais pas
c'est une position anatomiquement impossible.
Une espèce de protubérance comme ça, c'est incroyable, quoi. Il y a des trucs comme ça, quand on regarde bien toutes les cases, il y a des gros problèmes.
Ah non, c'est dégueulasse.
Oui. Très déçu niveau dessin. Niveau scénario, c'est tie-in à Age of Spider-Verse, ou enfin à Spider-Verse même tout court, puisque Morlun donc est en train de traverser les différentes terres, les différentes réalités, et de tuer au fait toutes les versions de Spider-Man existantes. Et donc là, il croise au fait le Spider-Man 2099, mais qu'on a vu dans Exile en français, on va dire ça comme ça. Et donc pendant ce temps-là, le Spider-Man 2099 qui est sur la Terre 616, hein, que l'on suit dans nos aventures, va faire sa connaissance à la fin de ce numéro avec Morlun. Il va se passer un petit truc.
Qu'est-ce qui se passe si tu mords l'autre? Voilà, personne ne l'avait jamais osé la faire, celle-ci. Voilà.
Oui, c'est vrai que si on le dit à la française, effectivement. Mais je sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment Morlun en fait? On dit ça depuis le début, mais.
Je peux comprendre en plus.
Non, quand même.
Mais en tout cas, alors oui, le gros souci aussi, c'est que Peter David, décidément, sur cette série, il est pas fun, quoi. Il était fun sur les deux premiers numéros, il était drôle, et puis là, je reconnais plus trop Peter David depuis quelques numéros. C'est pas spécialement fun, c'est pas spécialement drôle, c'est pas spécialement bon. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, j'espère qu'il va reprendre du poil de la bête une fois qu'il sera sorti de ce crossover, puisque là, bon, c'est un crossover un peu imposé, hein, du coup. Peut-être que ça va devenir meilleur par la suite, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que autant il est meilleur sur Hollywood Factor, mais Hollywood Factor a s'arrêté.
Il est triste de cet arrêt justement.
Ouais, je ne sais pas. Il y a peut-être de ça aussi. Mais là, je suis en train de revoir certaines images de ce numéro, puis franchement, c'est pas possible, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est un bras sur l'épaule de Captain America. Ok. Oui. Je vois des choses absolument cauchemardesques quand je tourne les pages de ce numéro. Enfin, franchement, c'est une expérience quand même. C'est une expérience graphique. Je vous encourage vivement à le feuilleter si vous ne lisez pas cette série, si vous ne l'achetez pas, au moins feuilletez-le, parce que vous allez vivre un moment qui restera gravé dans votre mémoire, quoi. Donc Rick Leonardi, je suis désolé de le dire, mais là il a un petit peu perdu la main. Hein. Ça va pas là. Va falloir faire quelque chose. Donc c'est sympa de le revoir pour le geste, mais ça fera plaisir à Rob Liefeld, quoi. Enfin voilà, il y a pire que lui, hein, sur ce numéro.
Bien. Bon.
Donc, un check-it, parce que bon, c'est important pour qui s'intéresse à Spider-Verse.
La phrase qui n'a pas de fin. Bon, mais on va passer à la suite alors. Daredevil numéro 9, retour et des reviews express. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, on va faire assez vite. Daredevil numéro 9, toujours écrit par Mark Waid et Chris Samnee, qui est au dessin mais qui est aussi considéré comme storyteller. C'est la suite de l'arc sur les enfants pourpres, ces enfants de Kilgrave, hein, l'homme pourpre, celui qui peut donner des commandes aux gens grâce à ses phéromones. Et les enfants décident d'utiliser leur pouvoir. Imaginez ce pouvoir de faire ce qu'on veut, donner dans les mains des enfants, ça va foutre le bordel très vite. Eh bien, c'est le cas. Et Daredevil va devoir se confronter à tout ça. Va-t-il seulement y arriver? Et Kilgrave est-il bien mort? Si c'est bien la question que l'on peut se poser, puisqu'on sait le sort qui lui était réservé à la fin du dernier épisode, hein, jeté devant un tramway, ça fait mal. Est-il vraiment bien mort? Et puis, Daredevil, enfin, en tout cas Matt Murdock, continue de réfléchir à ces propositions qui lui ont été faites, qu'on avait vues dans le mois dernier dans l'épisode précédent, le numéro 8, sur écrire ses mémoires. Proposition qui lui avait été faite par le père de sa petite amie, Kirsten. Voilà, très bon épisode, encore une fois, l'histoire est vraiment bonne, l'histoire avance bien aussi, et on commence à avoir quelques réponses sur cette façade enjouée de Daredevil. Est-ce une façade ou a-t-il vraiment changé? Justement, quelques éléments de réponse dans ce numéro, et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, l'histoire est toujours bonne, la série est toujours bonne, j'aime toujours autant Mark Waid sur Daredevil. Donc pour moi, c'est un bail, ce numéro. Voilà, j'avais promis une review express, c'est fait. Passons à Edge of Spider-Verse numéro 5, la fin de la mini-préparatoire, Bruno.
Et oui, et c'est aussi une review express, c'est écrit par Daniel Way. Qui fait un travail chez Marvel
plus vite.
Gérard Way, pardon. En plus Daniel Way, je confonds. Gérard Way, qui est le chanteur de je sais plus quel groupe de metal.
Mikey Metal, ouais, t'es gentil. Mikey Michael Romance, qui n'existe plus en plus.
Voilà, c'est ça. Et c'est dessiné par Jake Wyatt. C'est dans la donc Edge of Spider-Verse. C'est le numéro, je trouve, le moins réussi des cinq. On va s'intéresser à un Spider-Man beaucoup plus mécanique, une sorte de robot, à l'intérieur duquel on a la Penny Parker, qui est en fait une petite fille, qui reprend le flambeau après la mort de son père lors d'un événement assez tragique. Et donc, la jeune fille va monter dans ce robot après avoir été piquée par une araignée qui lui donne des pouvoirs génétiques pour pouvoir rentrer dans ce robot. Et elle va affronter une sorte de Mysterio un peu façon technologique. Elle va faire équipe avec un Daredevil super bizarre et c'est vraiment pas passionnant. Mis à part la fin, avec justement le lien avec Edge of Spider-Verse, qui est plutôt sympathique, puisqu'on voit, par exemple, c'est Spider-Ham qui intervient, donc c'est toujours marrant de voir Spider-Ham. Mais sinon, vraiment vraiment moyen. Disons que sur les 5, c'est le pire. Et mon préféré reste celui qu'avait fait Dustin Weaver, qui était un petit peu pareil aussi, avec un Spider-Man très technologique. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est juste un petit check-it.
On continue avec le coup de cœur de l'un d'entre nous. Il s'agit de Superior Foes of Spider-Man numéro 16, Mr. Nemeny.
Ouais, donc Superior Foes of Spider-Man, pardon, par Nick Spencer et Steve Lieber. Donc scénario et dessin respectivement. On assiste à plusieurs choses, hein. Ça va être une grosse guerre des gangs, puisque au fait Boomerang et toute sa joyeuse équipe ont créé un gros bordel avec la tête de Silverman, etc., qui aboutit à une grosse rencontre entre diverses personnalités de la MAGA, au fait, donc la mafia version Marvel, hein, souvenez-vous. Et donc c'est totalement délirant, c'est super drôle encore une fois, puisque les choses se déroulent d'une manière totalement ridicule. On a aussi Shocker qui était en mauvaise position, hein, il avait été enterré vivant, va-t-il s'en sortir
C'est vrai que c'est une position un peu inconfortable, j'en conviens.
Voilà. Il y a notamment une référence à Kill Bill, enfin il y a plein de trucs, hein, il y a plein de trucs à la con. Et il y a une scène totalement aussi hilarante qui m'a fait marrer. Alors c'est vraiment fait à la... C'est un petit peu un gag à la Gaston Lagaffe, Quick et Fluke, enfin vraiment les vieilles BD, voilà, où t'as une page, où t'as un gag par page, quoi. Et où t'as au fait Maxette, donc souvenez-vous, c'est l'ancien Scarabée, avec son nouvel équipement, au fait qui sort d'un resto, et au fait il croise le chemin d'un aveugle. Mais je vais pas en dire plus. Mais ça m'a fait mourir de rire.
On entend Flo mort de rire derrière, hein, quand même.
C'est très très con, mais sa discussion juste avant avec Stark est absolument géniale aussi.
Aussi, ouais.
Très 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 bonne.
Non, mais au fait, c'est limite, encore une fois, un gag par page. C'est vraiment très très bien foutu, très drôle. Pour moi, c'est vraiment une bouffée d'air frais, cette série, à chaque fois, et c'est d'autant plus dommage qu'elle s'arrête bientôt. Là en soi, c'est plus ou moins une conclusion d'ailleurs à pas mal de choses, hein, dans cet épisode. Ça pourrait quasiment s'arrêter là.
Quasiment. Il manque un épilogue quand même, parce que là on est toujours en plein dans l'action, quoi. Manque un épilogue à ça.
Mais et voilà. Et puis on quitte surtout. On voit surtout Boomerang en très très mauvaise posture dans cet épisode. Et on va voir s'il s'en sort et comment surtout il s'en sort. Enfin voilà, c'est toujours avec panache et surtout avec beaucoup de style et d'humour, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi c'est mon méga coup de cœur cette semaine, et j'ai vraiment adoré cet épisode. Et je pense que Flo aussi, du coup.
Ouais, c'est aussi mon coup de cœur, c'est ma meilleure lecture. Je pense que c'est un des meilleurs numéros. Il y avait un petit coup de mou, je trouve, sur certains numéros qui avaient moins d'humour, enfin qui en tout cas qui l'humour était moins marqué moins. Là on retrouve vraiment le même truc que les débuts, c'est-à-dire ça n'arrête jamais, et je pense que c'est un des meilleurs numéros que j'ai lu de la série. C'est l'avant-dernier numéro, donc ça fera 17, 15 si on compte qu'il y a eu deux numéros fill-in qui servaient à rien, pas écrits du tout par Nick Spencer en plein milieu du run.
C'était un peu moins bon d'ailleurs.
Oui, ça servait à rien, c'était assez pourri. Là, on sent qu'on arrive à un climax où en fait toutes les conneries de ce gang de losers, de Beetle, Boomerang, Speed Demon et tout, on sent qu'ils arrivent à. ils font face aux conséquences de leur connerie, quoi. Je veux dire, quand on voyait la fin de l'épisode précédent, qui est, je sais pas si je dois le révéler, mais enfin tout, où là, bah, tu t'attendais à ce qui arrive dans ce numéro avec la tête de Silverman, quoi. Le gang a capturé la tête de Silverman.
Quelle tête il a maintenant aussi.
Donc du coup, il la présente à la Magia pour devenir les patrons, parce que selon la règle, qui possède la tête de Silverman devient le chef de la Magia. Sauf que, en fait, ils se sont tous tournés le dos. Au lieu d'y aller ensemble, en fait, chacun dans son coin s'est trahi. Donc c'est assez génial. Ça amène à un climax énorme dans ce numéro qui est... Bah c'est n'importe quoi, et c'est vraiment hilarant, quoi. Le ton est super bien trouvé tout le temps. Oui, tout à fait, il y a du payoff, et les personnages, il tient tellement bien Boomerang, ce loser magnifique qui essaye toujours de s'en sortir comme il peut, quoi, de toutes les situations, en disant
avec sa copine aussi,
c'est pas moi. C'était pas moi. Non, ça marche pas. Et c'est tout au long de la série, c'est ça, donc c'est vraiment génial, quoi. Vraiment super, super numéro qui remonte le niveau, et très 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 bon. Dommage que ça s'arrête le mois prochain.
Donc si on comprend bien, ton coup de cœur à toi aussi, Flo.
Tout à fait, ouais. Je suis content, j'ai lu un truc Marvel, ça m'arrive rarement. Donc,
et un truc marrant.
Et il en un reste. Truc bien, en plus.
Enfin, il en restait. Pour oui. Toi, maintenant il ne va plus en rester beaucoup.
Oui, puisque toutes les séries que je lis sont annulées. Avant la fin de l'année, il y en a deux qui vont sauter. Donc.
Demandez à Flo d'arrêter de lire du Marvel, il porte la poisse apparemment.
C'est ça.
Je sais pas si tu es au courant, mais Hawkeye va revenir par Jeff Lemire.
Parlions hier soir dans le Weekly News.
Je sais.
T'as entendu ça.
Et j'espère secrètement que c'est bien, mais j'espère aussi que secrètement qu'en fait c'est pas bien, parce que comme ça, Lemire, ben, il n'a rien à faire chez Marvel, parce que j'aime pas Marvel maintenant. Chier
ouais, non,
ces
sauf
séries,
que Lemire, il a compris que DC se foutait de sa gueule et il a décidé de changer de crèmerie, il a tout à fait raison.
Non, c'est son contrat d'exclusivité qui se terminait, donc il va voir un petit peu ailleurs, il va tester d'autres trucs. Enfin bref, on verra quand ça sortira, on ne manquera pas de le chroniquer.
Nous allons passer à une autre review express, il s'agit de Hulk numéro 7, toujours écrit par Gary Lugan, avec Mark Bagley au dessin, Drew Hennessy à l'ancrage. Et on démarre avec Hulk, enfin en tout cas le Doc Green, hein, puisque c'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant, qui rencontre un autre parent, en quelque sorte, il s'agit de Hulkling, qui n'est lui pas affecté par les rayons gamma, mais il veut juste lui dire qu'il l'a à l'œil et qu'il a intérêt à faire gaffe. Superbe page d'ailleurs, on voit un mec avec un tatouage Superman sur l'épaule, ça m'a fait rire ça. T'as le S de Superman sur un passant, quoi. Voilà, petit clin d'œil à Gary Dugan qui dit « Marvel, c'est cool, mais j'aimerais bien aller bosser chez DC, peut-être, je ne sais pas. » Ou Mark Bagley qui fait du pied à DC, je ne sais pas.
Bah, Gary Dugan, il va faire Arkham Bidule,
Arkham Manor.
C'est peut-être pour ça. Et puis ensuite, Doc Green va partir à l'assaut d'un autre porteur des radiations gamma. Il s'agit cette fois-ci de Scar, son fameux fils, enfin plus ou moins. Et justement, on va essayer de lui enlever ses pouvoirs. Alors, y arrivera-t-il ou pas? Quelles seront les conséquences de cette rencontre entre les deux, entre ce nouveau Hulk, puisque finalement, c'est une nouvelle version de Hulk, hein, ce Doc Green, et Scar, qui n'a jamais vraiment vu Hulk comme son père et qui a encore moins envie de prendre cette nouvelle version de Hulk comme son père. Et on aura surtout des réponses très intéressantes sur cette nouvelle personnalité de Doc Green. Où est Banner? Eh bien, quelques réponses dans cet épisode. Le prochain épisode, on a un teasing. Il s'agira de la rencontre entre Hulk et She-Hulk, Red She-Hulk, pardon. Donc Betty Ross, qui a décidé, elle, de ne pas se laisser faire face à Doc Green et ne veut pas perdre ses pouvoirs gamma. Franchement, très bonne série, c'est toujours aussi bon, c'est très bien écrit par Gary Dugan. J'aime beaucoup cette série, pour moi c'est un bail, c'est vraiment un bon guilty pleasure, et voilà, on sent qu'il y a des choses encore derrière, c'est pas juste une rencontre entre tous les personnages à pouvoir gamma, il y a autre chose derrière de prévu, et ça c'est très intéressant. Donc bail pour moi, pour ce Hulk numéro 7. Dernier review de Marvel, qui décidément a énormément de reviews hein, de notre côté cette semaine, il y a beaucoup de choses qui sortaient, c'est Avengers World numéro 14, Bruno.
Oui, donc c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est écrit par Nick Spencer avec au dessin Marco Cecchetto.
C'est ton coup de cœur, mais tu le fais en express ?
Ouais, ouais, parce que bon, c'est mine de rien, c'est la conclusion d'un arc qui a duré quand même 14 numéros. J'étais déjà revenu en détail sur le numéro précédent dans une review. Là, c'est vraiment le payoff. On a quatre conflits. On a un conflit au niveau de la Maison Blanche avec les Avengers, les principaux qui sont essayent de protéger le président. Et après, on a toujours cette attaque de Madripoor sur Shanghai, je crois, Barbuda, la capitale de l'empire IEM qui fout le bordel, et enfin en Italie, la cité des morts avec Morgane Le Fay. Ça va à 100 à l'heure. On a les quatre conflits qui se résolvent dans ce numéro de façon vraiment super spectaculaire. Marco Cecchetto, mais franchement, pour moi, c'est un des tout meilleurs de chez Marvel. Enfin, actuellement, faudrait lui donner plus de titres. Il y a des pages, mais je pourrais rester des heures à les contempler tellement elles sont sublimes. Et je crois que mon coup de cœur de la semaine vient surtout justement de cette double splash page qu'on a à la fin du numéro, qui est juste, ça va devenir mon nouveau fond d'écran pour plusieurs semaines parce que c'est magnifique. Où on voit tous les Avengers rassemblés devant la Maison Blanche, et c'est hyper stylé. Et on comprend pourquoi.
Mais quel ringard.
Et on comprend le concept d'Avengers World. C'était pas du tout celui auquel je pensais quand la série a commencé. Et finalement, ça prend tout son sens. Et bah voilà, c'était 14 numéros assez excellents qui feront une très bonne histoire. On part après dans le numéro 15 sur un truc complètement différent puisqu'il y a toute une nouvelle équipe qui va arriver. Ça a l'air assez bizarre. Ça va être lié à Axis. Mais en tout cas, bah chapeau, parce que faire une histoire comme ça sur 14 numéros, c'était quand même un pari et il l'a réussi. Et donc pour moi, c'est un gros bail.
Très bien. Nous terminons avec les TP Marvel sortis cette semaine. La mini-série Deadly Hands of Kung Fu, qui était écrite par Mike Benson et dessinée par Tan Engwat, sort cette semaine en TP. Elle devrait peut-être pas trop tarder à sortir dans un hors-série en France. Enfin, normalement. Elle est au prix de $17, puisque vous aurez donc cette mini-série en 4 parties, ainsi que du matériel provenant de Deadly Hands of Kung Fu numéro 1 et 32 et 33, la série de 1974. Nous avons aussi le Deadpool Dracula's Gauntlet numéro 1 à 7 qui sont collectés dans une version TP, enfin hardcover, pardon. C'est au prix de $35. C'était ce comic digital. Si ma mémoire est bonne. Hein.
Oui, tout à fait. Qui après a été édité également en version papier et ça va sortir en français le mois prochain, je crois, en Monster. Et c'est une très bonne histoire qui prépare normalement au mariage de Deadpool. Voilà. Il nous présente sa copine.
En tout cas, c'est écrit par Gary Dugan, hein, qui est le maître à bord de la série Deadpool, avec des dessins de Ray Lee Brown. Passons maintenant du vieux du Masterworks de Marvel. Il en sort chaque semaine, quasiment, en version gros hardcover cette semaine. C'est du $70, évidemment. Il s'agit de Miss Marvel avec les 14 premiers épisodes de la série de 1977, évidemment. La vieille série Miss Marvel, sa première série.
D'accord.
Un gros TPB, le Complete Collection de Marvel Zombies, volume 3 sort. C'est bizarre, il y a Halloween bientôt, non ? À se demander oui. Si c'est pas fait exprès. $35 pour ce TP qui va reprendre alors des numéros de Marvel Apes, le Marvel Apes Prime 8, mais aussi Marvel Zombie Evil Evolution, qui était un one-shot, le Marvel Zombie 5, la mini-série en 5 parties, Marvel Zombie Supreme, qui était une mini en 5 aussi, Marvel Zombies Destroy, 5 parties également, et enfin Marvel Zombie Halloween. Voilà pour l'ensemble, pour $35. Ouais. On en parlait hier avec IDW qui va ressortir dans des formats luxueux les strips de Spider-Man. Eh bien, sort cette semaine le Spider-Man Newspaper Strips, ce deuxième TP, donc dans un format plus classique, pas une grosse édition très luxueuse. Ça vaut $35 et ça reprend les strips du 29 janvier 79 au 11 janvier 1981. C'est bien sûr du Stan Lee avec du John Romita Senior au dessin. Enfin, Thor Epic Collection. Alors attention, ne vous faites pas avoir, le titre s'appelle The God of Thunder. Ce n'est pas la nouvelle série, celle de Jason Aaron, enfin la dernière série récente. Il s'agit bien du premier numéro de Thor, la version de les années 60, puisque vous aurez les numéros 83 à 109 de Journey into Mystery. C'est au prix de $35 dans cette très belle collection Epic Collection.
C'est la première apparition donc, de Thor, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est ça, les toutes premières apparitions, c'est le premier volume de cette Epic Collection consacré à Thor. Ou à raison.
Ou à travers.
Travers de Thor.
Ouais.
Oh, oh putain. On va passer à l'indé. Oh merde, c'est moi. Je pensais pouvoir fermer ma gueule deux minutes, mais non. On va passer à l'indé. On va démarrer avec du Dynamite. Il s'agit du deuxième épisode de Alice Cooper, toujours scénarisé par Joe Harris, avec des dessins de Eman Casalos ou Casayos, je ne sais pas comment le prononcer. C'est bizarre. Franchement, je vais le résumer comme ça, c'est bizarre. On a toujours Alice Cooper qui essaye de se défaire d'un côté du contrat qui le lie à ce... Alors, je retrouve plus son nom parce que c'est toute une famille hein, qui s'appelle tous Black, sauf la sœur qui s'appelle White, mais elle fait partie du clan Black quand même.
Ouais.
Ah, je vous dis que c'est Zarb. Hein. Je vous dis que c'est Zarb. Bref, il était sous contrat avec ce mec-là qui essayait de se faire du pognon avec Alice Cooper, mais ça marchait pas très bien. Et le jeune garçon que l'on voyait dans le premier épisode qui achetait dans un garage sale, enfin un espèce de vide-grenier, un disque d'Alice Cooper, et le nouveau maître d'Alice Cooper, en fait, ce disque lui permettait de signer une sorte de contrat, le libérer de son contrat actuel avec un des membres de la famille Black, et décide d'utiliser Alice Cooper pour se venger du méchant Bully qui le traumatise à l'école, en fait. Et pendant ce temps-là, dans le monde des cauchemars, Alice Cooper et ses deux serviteurs, l'espèce de gros serpent et un mec qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Vincent Price, logique,
ouais.
Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Alice Cooper, vont essayer de le sortir de sa catatonie dans laquelle il est plongé. Franchement, ces arbres, ça va. C'est pas inintéressant, mais c'est super bizarre et c'est hyper dur à suivre, quoi. C'est hyper dur à suivre, puisque ce nouveau clan Black, puisqu'on va le voir maintenant au complet, veut essayer de récupérer Alice Cooper pour toujours essayer de se faire un max de blé avec. Mais Alice n'a pas envie, voilà. Mais il est lié par un contrat avec quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, je sais pas où ça va, j'ai du mal à comprendre. Même pour les fans d'Alice Cooper, dont je fais partie, c'est tout juste un check-it, quoi. Et pour les autres, c'est franchement un pass. Donc bon, j'ai envie de vous dire de... Je sais pas, gaspillez pas votre argent, quoi. N'y allez que si vous êtes vraiment fan du monsieur, et encore. Je sais même pas si ça vaut vraiment le coup. On va passer à Dark Horse maintenant avec toi, Bruno, qui va nous parler du deuxième numéro de Prometheus.
Oui, c'est écrit par Paul Tobin avec des dessins de Juan Ferreira. Et c'est vraiment très sympa. Déjà, graphiquement, Juan Ferreira fait du beau boulot, hein. C'est très propre. Ses aliens sont magnifiques. Donc on est toujours sur cette planète qu'on avait pu voir dans Prometheus, LV-223, plusieurs années après le film, où en fait la végétation a pu apparaître grâce justement à tout ce petit liquide noir là qui s'est propagé sur cette planète, et on suit ce groupe d'explorateurs qui sont censés aller récupérer des informations dans le vaisseau qui s'est écrasé sur cette planète. Et donc voilà, pas mal d'action, c'est très très rythmé. On a vraiment déjà des personnages, les membres de l'équipe qui s'entendent pas et tout, donc ça fait il y a pas mal de réparties et de dialogues assez sympathiques. Les scènes d'action sont très belles, c'est assez gore, on a des aliens vraiment bien mis en avant, on a même des sortes d'aliens requins et tout, c'est assez classe. Et on arrive à rassembler les morceaux entre les différentes séries, puisque c'est assez original, mais sur les quatre titres, on se place à différents moments dans l'histoire de Fire and Stone. Et dans ce numéro, on va comprendre quelque chose qu'on a déjà vu dans Alien vs Predator. Et du coup, c'est vrai que les titres, c'est important de lire peut-être les quatre mini-séries pour vraiment en tirer la substantifique moelle. Et pour l'instant, moi, je passe un bon moment et ça fait plaisir de lire du bon Alien, sachant qu'en plus, on nous tease des révélations sur les ingénieurs, donc... pour tous les fans de Prometheus, s'il y en a.
Il y en a-t-il quelque part.
Mais pour les fans d'Alien, en tout cas, allez-y, il y a de très beaux aliens et c'est très sympa. Donc pour moi, c'est un bon gros bail. Et voilà, ils ont peut-être perdu Star Wars, mais s'ils arrivent à bien dynamiter et dynamiser la licence Alien et compagnie...
Non, à Dark Horse-iser,
ouais. La remettre bien sur le devant de la scène, ça pourrait être cool.
On va passer à un comic adapté de jeu vidéo. Mister René Bonny l'a lu. Il s'agit de Skylanders numéro 1 par le grand Ron Martz, qui est sorti cette semaine.
Oui, exactement.
Je plaisante, il s'agit bien sûr de Evil Within.
Evil Within, voilà, exactement, quand on le prononce bien.
J'ai pas fait de référence à ce que tu as dit avant l'émission d'hier.
Oui, c'était avant l'émission d'hier.
Oui, c'était avant l'émission, oui.
Alors, donc, ce numéro 1 par Yann Edicton, je vais y arriver, et Alex Sanchez. J'ai pas encore joué au jeu.
Mais comment fait-il pour s'asseoir?
Oh là là là. Il va rester debout, hein, je pense, pendant toute la. J'espère que t'es debout, Steve, pendant toute cette, pendant tout ce podcast, parce que tu mérites que ça, quoi. Rester debout pendant tout le truc. Donc, bah, j'ai pas joué au jeu. Est-ce que ça m'a donné envie d'y jouer? Pas vraiment. Franchement, c'est une exploitation bête et méchante de licence. Donc, on a une nana qui recherche une amie à elle. Elle est en bagnole. Elle collait au fait des prospectus, hein, comme on le fait aux États-Unis, bon bah pour retrouver des gens disparus, un petit peu partout d'ailleurs. Mais
je te rassure qu'on le fait aussi en France, hein, il y en a un au feu de là où je bosse, hein, voilà.
Ouais, mais ça se voit, c'est vrai, ça se voit beaucoup plus aux États-Unis et puis beaucoup plus dans les séries, etc. À chaque fois, c'est on colle des affiches partout.
À défaut des briques de.
Et toujours est-il que elle se retrouve dans une espèce de ville de malades. Alors avec les gros clichés hein, qui vont avec, elle s'arrête dans une station-service où c'est le bordel. Y a des morts partout, voilà, des créatures bizarres. Elle croise un gars qui est un petit peu dans la même galère. Apparemment, ils ont pas du tout la même version, enfin la même notion du temps, puisque le gars parle d'un événement qui se serait passé 2 ans auparavant et pour elle c'était il y a 6 mois. Enfin, on sent qu'il y a un problème. Et ils sont aussi poursuivis par une espèce d'étrange être avec une tête en coffre-fort en fait. À la place de la tête, il a un coffre-fort.
J'ai cru que c'était un mimique arbre.
C'est un mimique.
Bah, c'est Boxhead en fait qu'il l'appelle et c'est clairement pompé un petit peu sur le personnage qu'on voyait dans les Silent Hill Pyramid Head qui
c'est,
avait.
C'est pompé sur Dark Souls.
Aussi un peu, mais c'est pas un vieux coffre, c'est vraiment le coffre-fort avec la. C'est les molettes et tout, c'est un peu plus moderne. D'accord. C'est la version moderne du mimique, effectivement.
Et bon, il se retrouve dans ce monde cauchemardesque qui doit être beaucoup mieux dépeint dans le jeu vidéo, puisque là, les dessins sont pas terribles.
Hein, c'est pas beau, hein.
Franchement. Oui, c'est pas beau. C'est pas beau, mais ça a réussi même le pari d'être quand même un peu meilleur que les dessins de Rick Leonardi cette semaine.
Faut que je feuillette ce Spider-Man. Moi, j'ai lu aussi j'ai lu ce Evil Within, parce que moi, je joue au jeu et je me suis dit, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'on va suivre un nouveau personnage et qui va être amené à rencontrer un des vilains qu'on voit dans le jeu, un des protagonistes principaux. Et on va revivre dans ce comics des mécanismes qu'on a dans le jeu. Cette salle, par exemple, où elle passe à travers un miroir, c'est un élément très important du jeu. C'est la salle dans laquelle tu peux sauvegarder et augmenter tes capacités. Donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil par rapport au jeu vidéo. Mais ce premier numéro m'a pas apporté de réponse supplémentaire par rapport au jeu. Après, j'ai pas suffisamment avancé dans le jeu, j'ai pas encore fini le jeu, donc j'ai pas les révélations finales. Donc je dis, franchement, même pour les vrais fans du jeu, c'est vraiment juste pas terrible. Et pour les autres, je déconseille totalement. Hein. C'est sympathique si on est fan du jeu, mais alors, pas plus quoi.
Peut-on être fan du jeu alors qu'il est sorti il y a 2 jours?
Bah moi j'ai envie d'y rejouer là tout de suite là, donc j'ai envie d'arrêter de poser mon casque et de jouer à Evil Within. Bon, c'est pas grave.
Arrêtez
bah vas-y, hein, dis-le quand t'emmerdes, hein, tout de suite. Dis-le que t'es pas bien, pardon. Non mais pareil, hein, pour moi ce sera un gros pass. Franchement, ça sent l'exploitation de licence un plein nez. C'est publié chez Titan, on l'a pas dit je pense.
Ouais.
Voilà, Titan Publishing. Bon.
Voilà, donc passe aussi.
Mauvaise pioche.
Continuons avec toi Bruno, tu vas nous parler du deuxième numéro de Wild's End.
Et ça, ce n'est pas un pass, hein. C'est écrit par Dan Abnett et avec au dessin ING Culbard. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ING, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est une histoire...
Nominate Jesus.
C'est possible, toujours ça. C'est une histoire vraiment très sympathique dans laquelle on a une invasion extraterrestre dans une petite bourgade typée un peu anglaise. Et cette bourgade en fait est peuplée d'animaux c'est très anthropomorphique, hein, c'est des corps humains mais avec des têtes d'animaux, c'est-à-dire que les héros c'est un chien, un chat et une belette je crois. Et ils sont confrontés justement à cette invasion alien très H.G. Wellsienne avec des aliens très 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 bizarre. Et en fait le héros principal qui est le chien, il a un passif un peu mystérieux et c'est lui qui prend les choses en main pour aider cette petite ville. C'est vraiment très sympa et en plus ça a beau être avec des dessins plutôt voilà, on va dire un peu enfantin, même si c'est moi je trouve ça très beau. Mais par contre, c'est quand même assez trash, hein. Il y a des personnages qui ont leur tête qui se font exploser, voilà, donc ça hésite pas. Et dans ce numéro, en plus, on fait la connaissance d'un nouveau personnage qui est un chat, une auteure en fait qui vivait reclus en haut d'une colline. Et voilà, qui est très bien dépeinte, les dessins sont assez excellents. J'aime bien les chats et voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment une bonne surprise ce titre et j'attends la suite avec impatience. Et c'est un bon gros bail.
Ah oui, t'as fait rapide.
Ah oui, j'ai fait rapide aussi.
Puis-je m'asseoir pour ma prochaine review quand même?
C'est non. Pas Sanchez.
Non, je suis obligé de rester debout encore. Putain.
Non, tu t'appelleras Steve Sanchez aujourd'hui.
Nous allons retourner chez Dynamite et finalement j'ai fait du Dynamite cette semaine avec un one shot The Twilight Zone Lost Tales, suite de cette série, hein, ce revival de la série Twilight Zone chez Dynamite. Ils ont fait un petit one shot avec trois petites histoires dans ce numéro, des histoires écrites par Mark Ranner pour l'ensemble, avec des dessins pour la première de Randy Valiente, de Edu Mena pour la deuxième et de It's All In de Rod Rodolfo, j'allais vous donner le titre de Rod Rodolfo pour la dernière histoire. Bah, je vais le dire clairement, franchement, passez votre chemin, à moins d'être extrêmement fan de Twilight Zone, mais enfin franchement, ça s'appelle Lost Tales, ça aurait pu rester perdu, quoi. Ça aurait pas été un grand mal. Histoires, une
jolie.
Trois petites histoires avec le concept de Twilight Zone, voilà, avec une petite morale divergente à la fin. Il y a guère que la deuxième qui est sympathique parce qu'elle a un effet de style, elle est faite en noir et blanc, donc on a vraiment l'impression de regarder la série des années 50. C'est assez marrant parce que j'en ai regardé en plus la semaine dernière, c'était aussi pour ça que j'étais voir ce one shot. Grâce à Hulu, j'ai pu regarder quelques vieux épisodes de Twilight Zone. C'était plutôt cool. Là, on est dans une histoire de science-fiction, hein, pour la deuxième, donc en noir et blanc, ça colle vraiment bien. Mais les trois histoires sont franchement pas super super fun, quoi. Ça aurait peut-être pu passer, et encore même pas sûr, pour un épisode de série télé d'une demi-heure. Mais là, en dessin, les dessins sont pas dégueux, mais sont pas franchement très très beaux. Moi, j'ai envie de dire un pass, quoi. Bah, sauf si vous êtes vraiment fan de la franchise. Voilà. J'ai pas vraiment pris mon pied avec ça. C'est un numéro double, mais voilà, c'est la double peine, quoi. Nous allons terminer notre session indé avec Flo, qui va nous parler du numéro 0 de Unity.
C'est l'instant Valiant. Oui, Unity numéro 0.
Créateur de jingle sur l'instant, quoi.
C'est ça. Un des nombreux numéros 0 qui depuis quelque temps parcourt les séries Valiant, écrit par Matt Kint, donc l'auteur habituel de la série, dessiné par Carrie Nord, très bien dessiné par Carrie Nord, et colorisé par José Villarrubia. Ça va nous raconter effectivement littéralement l'origine de Unity, Unit Y en fait, Unit Y, qui en fait est une unité de l'armée anglaise de l'armée anglaise et des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, qui a été fondée pendant la Première Guerre mondiale. Et devinez qui on retrouve dans cette Unit Y. On retrouve évidemment Gilad Hanipada. On retrouve Eternal Warrior. Qui est de toutes les guerres et de tous les conflits, rappelez-vous. Et dans cette équipe de Unity, cette proto-équipe de Unity, on trouve des personnages tout nouveaux, en fait, voilà, créés et designés d'ailleurs par Matt Kint. Dell, une femme en scaphandre qui peut voler, qu'un genre de mini zeppelin au-dessus d'elle, qui lui permet de voler. Donc elle a pas de jetpack. À l'époque, ils n'avaient pas encore ça, Première Guerre mondiale, mais elle a un mini zeppelin, des genres de lance-flammes accrochés aux manches, à ses bras. C'est assez rigolo. Il y a Alpha, un black qui est un genre de gros bourrin qui se bat avec une épée, et Breaker, qui est une genre de grosse brutasse écossaise, je pense, tatoué, qui a des chiffres partout tatoués sur lui, mais qui en fait n'utilise jamais la violence. Donc c'est une grosse brute, mais vous savez, avec le Marcel blanc et le béret et tout, et les bretelles, mais qui déteste la violence et qui est en fait un vrai génie, quoi. Donc il est tout le contraire de ce à quoi il ressemble. C'est très très drôle, et surtout Matt Kint lui file un accent, mais j'ai jamais vu un accent aussi tranché écrit en comics, quoi. That, il écrit ça T-H-A-T acheté. C'est A-H. J'arrive même pas à lire.
C'est l'accent, c'est l'accent
si vous avez déjà...
classique que l'on voit dans les comics. Hein.
Ouais.
Le mec qui se la pète, quoi.
Non, mais là c'est.
C'est classique.
C'est pire. Non, mais je t'assure que c'est vraiment pire. Là, chaque mot est écrit différemment. Quoi. C'est un truc de fou. C'est à lire, c'est vraiment cocasse.
Bah, et... le secret, hein, comme d'habitude, hein, le secret pour arriver à voir les accents, c'est de les prononcer. Prononcez le mot et vous repérerez le mot que c'est facilement.
Si vous avez déjà entendu des interviews de Grant Morrison, vous allez comprendre.
C'est atroce.
C'est atroce. Vraiment un truc de fou. Il faut écouter ça au moins une fois dans sa vie, c'est assez rigolo. Voilà, en gros, on va suivre en fait, tout simplement cette équipe assez originale pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, cette histoire sert de prélude à ce qui va se passer à la suite de Unity. Donc. Je peux pas trop en dire, mais visiblement il y a certains de ces personnages qu'on croyait disparus du coup. C'est ce qu'on va découvrir. On va découvrir un petit peu comment cette première Unit Y va se déliter dans ce numéro. Donc c'est autocontenu, c'est un one shot. Mais visiblement on va les retrouver un petit peu plus tard dans le prochain arc de Unity. Donc j'ai trouvé ça marrant le fait qu'il lit Unit Y et Unity, voilà, le fait que ça existait avant, que c'est un genre de programme, pas Weaponings, mais un genre de, une genre de task force qui existait déjà avant, et surtout le fait que Eternal Warrior y était déjà à l'époque, un siècle plus tôt. J'ai trouvé ça cool et l'histoire est vraiment toute bête, mais c'est surtout les personnages en fait qui sont sympas et très originaux. Ça me fait penser un peu à des créations de Mignola, ça pourrait être tout à fait des créations de Mignola en fait, les personnages assez haut en couleur avec des costumes un peu bizarres, rétro, ça va être très Mignola en fait. Donc voilà, moi c'est un bon petit numéro one shot comme c'est souvent en faire Valiant avec ses numéros anniversaires ou numéro zéro, donc très sympa et j'ai envie de, ça m'intrigue sur la suite de Unity en tout cas. Donc, et puis les dessins sont très très beaux de Karine Ord, vraiment c'est super beau. Donc c'est un bon petit bail.
C'était le point Valiant. Valiant.
Les mecs, vous avez... Oh là, non, là c'est un jingle connu ça monsieur. On vous a grillé monsieur, c'était un jingle connu. Allez, on va passer au TP de notre section 1D. On démarre avec le 4e TP de Peanuts, ces nouvelles aventures qui sortent chez Boom Comics. Vous avez les épisodes 5 à 8 dans ce TP. C'est au prix de $14. C'est pas excessivement cher. Il n'y a que 4 numéros, mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ont envie de lire des inédits de Peanuts, pourquoi pas. Chez Dark Horse, nous avons Action Philosophers. Peut-être connaissez-vous cette série de Fred Van Lente qui va reprendre les plus grands philosophes et les mettre dans des version un peu badass, d'où le nom Action Philosophers.
D'accord.
Ah, c'était sorti en français. Dark Horse les republie avec l'entier Action Philosophers, ainsi que 8 pages d'histoire nouvelle. C'est au prix de $30. Toujours chez Dark Horse, vous avez un Yuzagi Yojimbo Saga Volume 1 en hardcover qui sort cette semaine en version limitée à $80, mais vous avez la même chose en version TP à $25. Vous avez donc 600 pages de Yuzagi Yojimbo à l'intérieur. Ça va reprendre le numéro 1 à 16 du volume 2 et le numéro 1 à 6 du volume 3. Voilà, par le Stan Sakai évidemment. Puisque nous arrivons en hiver.
Ah, c'est ce que j'allais dire. Voilà.
C'est l'émission des jeux de mots pourris. Hein,
c'est, oui, non,
sur,
voilà,
les noms, je, sur les noms. Sur les noms.
Bien
ça.
Oui, on aime bien. C'est vraiment dégueulasse en plus. Blaze Brothers est sorti chez IDW, une mini-série qui sort donc en TP. C'est au prix de $18. Nous avons aussi Clone, le 4e TP qui sort chez Image avec les épisodes 16 à 20 pour $13. Ça fait vraiment liste, mais j'essaye de faire vite pour pas perdre trop de temps. The Field est sorti en TP. Cette mini-série d'Ed Brisson et Simon Roy au dessin avec donc les 4 épisodes ainsi que du matériel inédit en plus et quelques extras au prix de $15. Série qui, en tout cas, je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu de très très bons échos sur cette mini pour le moment. L'un de vous l'avait lu,
d'après ? Non, je ne connais pas.
Non.
Sûrement, vous connaissez la suite Satellite Sam, la série de Matt Fraction et Howard Shaking qui sort son 2e TP cette semaine au prix de $15. Et maintenant, nous allons rentrer dans des projets un petit peu plus pour Noël, des choses un petit peu plus artbook, ces sortes de choses. Ah, il me restait un dernier truc. On a le Meteor Man, le graphic novel de Jeff Parker qui sort chez Oni Press au prix de $20. Jeff Parker et Sandy Jarrell au dessin. Voilà. Donc dans les projets un peu plus pour Noël, hein, si vous n'avez pas trop d'idées de cadeaux, vous avez un Planet of the Apes Evolution of Legend Celebration Movies TV and Merchandising. Voilà, quel titre oui. à rallonge. Enfin, le titre c'est The Evolution of the Legend.
C'est
voilà,
sûr, si on manque d'idées, là c'est vraiment le truc, vraiment la grosse liste des cadeaux. Quoi.
Mais bah, pour ceux qui sont fans en tout cas de la franchise, pour ceux qui sont fans de la franchise Planète des Singes, c'est un bouquin qui vaut $40 et qui va vous parler des 40 ans de l'histoire de la Planète des Singes, que ce soit la première série de films, mais aussi la série télé, le merchandising, etc., etc. Et bien sûr, les Planètes des Singes, beaucoup plus récents.
40 ans de singes.
Voilà.
De singerie.
Et pour ceux qui aiment le vieux et l'un peu inédit, enfin en tout cas le difficile à trouver, vous avez The Black Dragon qui sort chez Titan Books. C'est une histoire de Chris Claremont avec des dessins de John Bolton et qui sont compilés cette fois-ci en couleur, pour la première fois. Ça vaut $20. Toujours chez Titan, qui ressort des vieux trucs de créateurs très connus, on a du Peter Milligan avec la complète de Johnny Nemo. C'est au prix de $23. Des choses qui sont assez difficiles à trouver aujourd'hui. Hein. Chez The Hero Initiative, vous connaissez sûrement The Hero Initiative, qui est un moyen de verser un maximum d'argent aux créateurs dans le besoin, vous avez le Uncanny X-Men 100 Projects, la version TP au prix de $13, qui va reprendre justement 100 couvertures, il y en a même 104 en fait, qui ont été faites justement au profit des auteurs dans le besoin. Si vous avez envie de soutenir ce projet, c'est au prix de $13, c'est sorti chez nous bien sûr chez Hero Initiative. Enfin, puisqu'on parlait du jeu tout à l'heure, vous avez The Art of the Evil Within en hardcover qui est sorti cette semaine chez Dark Horse, puisque c'est eux qui ont la licence. C'est au prix de $40 justement pour avoir plein de justement d'art sur le jeu, des concepts, art, des versions réalisées, etc. Tu vas t'empresser de te jeter dessus, Bruno.
Disons que pour l'instant, je trouve que la touche graphique, enfin le character design et compagnie est vraiment très réussi. Et c'est vrai que ça doit valoir le coup, mais de là à me jeter dessus, je suis pas sûr. J'attends de voir la fin du jeu, voir si je vais devenir vraiment ultra fan.
J'imagine trop Bruno se jeter dessus. Tu sais.
Ah façon plaquage et tout. Bam.
Et on parlait de vanne pourrie tout à l'heure.
Ouais.
Ah
bah
non,
ça
mais
continue,
là c'était même pas une vanne, c'était une imagination comme ça, voilà. Et je suis sûr que les gens rigoleront en l'imaginant aussi.
On va passer à notre partie d'essai pour conclure notre émission. On va démarrer avec Bruno qui va nous parler du Batman et Robin numéro 35.
Oui, c'est écrit par Tomasi, Peter J. Tomasi, avec des dessins de Patrick Gleason, avec une superbe couverture avec Batman et son costume spécial qui lui permet d'aller sur Apocalypse. Alors, c'est toujours cet arc où en fait Batman essaye de récupérer le corps de Damian et ce fameux artefact magique qui peut-être permettrait de ressusciter son fils. Il est parti alors que tout le monde lui a dit qu'il ne fallait pas le faire et il a demandé à la Bat-Family de rester à Gotham pour protéger la ville tant qu'il n'est pas là. Dans ce numéro, en fait, on va se rendre compte que la Bat-Family a pas envie de rester les bras croisés. Ils ont envie de participer à la recherche de Damian et à aider Bruce Wayne. Et donc, ils vont essayer de trouver un stratagème pour pouvoir s'enfuir et aller sur Apocalypse. Et pour cela, ils vont essayer de convaincre Cyborg, peut-être sans qu'il le sache vraiment, d'utiliser une téléportation Boom Tube pour aller sur Apocalypse. Donc c'est assez amusant de retrouver Red Hood, Batgirl et Red Robin en team-up pour essayer de déjouer ce pauvre petit Cyborg qui encore une fois se retrouve être le dindon de la farce. C'est plutôt bien fait, je trouve ça assez amusant. On a droit à une scène aussi assez sympa où la Bat-Family essaye de convaincre Batwoman de prendre le relais dans la protection de la ville. Et là, du coup, ce qui était vraiment bien mis en avant, c'est ce côté où en fait Batwoman a rien à foutre de la Bat-Family, elle est vraiment complètement à part. Et
elle a rien à foutre.
Non, mais oui, carrément. Et donc voilà, elle prend ça avec un petit peu d'humour et je trouvais la scène c'est cool. Et sinon, les scènes sur Apocalypse sont classe aussi, avec un Batman très très énervé qui se bat avec de grosses scènes d'action. C'est de la bonne lecture, du bon comics, un petit peu d'humour, des scènes un peu over the top. On a un Caliban Kalibak, comment il s'appelle déjà? Kalibak, c'est ça, le fils de Darkseid, j'ai oublié son nom, qui est hyper gros, hyper musclé et tout, qui a l'air de vouloir faire un truc pour aider son père. Ça, c'est encore un peu le mystère à la fin du numéro. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez content de cette saga Robin Rises. Il y a un numéro par mois, ça avance tranquillement et c'est assez plaisant. Donc pour moi, c'est un bail.
Oui, c'est prévu pour aller jusqu'à décembre, hein, avec ce fameux Robin Rises Omega, je crois. Yep. Ou Alpha.
Je sais plus dans quel ordre ils ont commencé. Mais...
C'est Alpha, ouais.
Voilà. Alpha. Pas comme les autres.
On reste dans la Bat Family avec le Batman Eternal numéro 28, Benny.
Avec donc au scénario Scott Snyder, j'ai oublié le reste.
Jason Unford,
voilà, Tim Seeley est au script de mémoire et c'est tout. D'ailleurs, c'est les seuls qui sont cités pour ce numéro. Il y a pas de scénariste consultant sur celui-là. Megan Etrick est au dessin. Franchement, c'était pas passionnant cette semaine, Batman Eternal. Au fait, on conclut vraiment l'intrigue autour de Killer Croc, et ça met en place Catwoman enfin en big boss, quoi, de Gotham, quoi, en tant que reine de la mafia de Gotham. Mais il était temps, quoi, que ça aboutisse, parce que ça traînait en longueur. Et puis, c'est assez bizarre, parce que, au fait, cette semaine, il y a quand même des événements dramatiques dans cet épisode, mais c'est sur un ton tellement léger, finalement, que ça... Je sais pas, ça, c'est un peu ridicule, quoi. On sent pas vraiment de l'importance pour ce qui se passe. Bon, je sais pas si c'était plutôt Tim Seeley du coup qui était précisément au scénario de cet épisode, mais j'ai trouvé l'ambiance et le ton un peu différent d'habitude. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, quoi, cette fois-ci. Petit cru. Puis il y a aussi l'intrigue entre Red Hood, Jason Todd donc et Batgirl, Barbara. Il y avait une espèce de pseudo-intrigue d'amourette naissante entre les deux personnages, et puis finalement Jason Todd lui dit que il n'est pas Dick Grayson, et puis voilà. super excuse. Je pense que ça en restera là. On va peut-être enfin attaquer une période, enfin une phase un peu plus importante dans les épisodes à venir, parce que là il y avait un petit creux depuis 2-3 épisodes, voilà, il se passait pas grand chose. Ce sera juste un check-it, quoi, pour moi, cette semaine, Batman Eternal.
On change légèrement d'univers, puisque nous allons passer à Teen Titans numéro 3, Flo.
Oui, écrit par Will Pfeiffer, dessiné par Kenneth Rocafort. Série qui, malheureusement, a eu un peu de mal à démarrer, puisqu'il y a eu quand même le mois Future Zen, donc le numéro 3 sort 2 mois après le 2, donc c'est pas génial pour accrocher les wagons, mais je l'ai lu quand même. Et dans ce numéro, on va continuer cette intrigue autour d'un être un peu robotique lié à des personnages un peu bizarres qui travaillent pour l'Argus, pour Star Labs, pas pour l'Argus. Et donc il va y avoir en gros une confrontation, hein, dans ce numéro entre les Teen Titans enfin réunis, on va les voir un petit peu tous agir contre cet être robotique aux intentions un petit peu mystérieuses. Qui est la chef visiblement des terroristes qu'on a vu dans le numéro 1, aux intentions mystérieuses. On va voir un petit peu des séquences entre les différents personnages des Teen Titans séparés qui vont au fur et à mesure se rassembler se confronter à ce personnage. Et c'est là qu'on voit un petit peu les forces et les faiblesses, je pense, en termes d'inspiration de l'auteur sur les différents personnages. Parce qu'il y a des séquences que j'ai trouvées vraiment réussies et assez cool. Il tient bien certains dialogues. Moi, depuis le numéro 1, ce que je préfère pour le moment, c'est le duo, le couple, Bunker, Beast Boy, qui, je trouve, a une bonne dynamique. C'est assez drôle. Ils sont marrants. Beast Boy, il tient bien le personnage vraiment loufoque qu'avait notamment à l'époque George Perez. George Perez, Marv Wolfman. Parce que voilà, il est vraiment loufoque, il vanne tout le temps, il essaie de détendre l'atmosphère. Et c'est pas lourd, ils ont une bonne dynamique tous les deux en tant que couple, c'est assez sympa. Et après, il y a des personnages comme Raven, où là, on est loin de ce que c'était, de ce que c'était à l'époque, quoi. En termes de profondeur,
Emogoth, quoi.
J'ai pas du tout ressenti la même chose. On ressent pas le personnage vraiment. Il est off, quoi. Elle reprend les mêmes caractéristiques de la Raven classique, quoi, mais de Wolfman, mais sans vraiment cette profondeur qu'il y avait avant et que moi j'adorais dans la série de Wolfman et Perez. Donc voilà, il y a des hauts et des bas. Je trouve c'est plutôt bien écrit. Il y a une bonne dynamique de personnages quand même, mais il y a des trucs qui sont off, quoi. La Wonder Girl est plutôt cool. Là, ça va. On la voit un petit peu plus que le numéro précédent où elle était absente totalement. Donc c'est plutôt intéressant, mais je suis toujours pas 100% convaincu, quoi. Je continue quand même jusqu'au numéro 5-6, quoi, mais je sais pas, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas, je suis très mitigé, très partagé. Steve,
mais je suis un peu dans le même état d'esprit que toi concernant cette série. Moi je vais continuer pour la simple bonne raison que j'aimerais avoir enfin la réponse de savoir si le personnage que l'on voit est bien l'ancien personnage de Wildstorm auquel on pensait depuis le départ ou pas.
Je pense parce que il y a un des personnages qui travaille pour Star Labs qui s'appelle qui a un nom ridicule d'ailleurs, Manchester Black, qui était un personnage de The Authority.
Mais oui, alors est-ce que ce personnage est bien un personnage Wildstorm ou pas? Justement, donc c'est vraiment la réponse à la question que j'attends. Je vais aller voir la fin du premier arc. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce que tu, par rapport à ce que tu as déjà dit, en fait. Tu as très bien résumé le petit souci de cette série, je trouve. C'est que, est-ce que franchement ils sont attachants? Est-ce que ça méritait un relaunch? J'ai des doutes. Franchement, j'ai des gros doutes concernant l'avenir de cette série. Est-ce que franchement, ça va assurer ou pas? Le cliffhanger est intéressant, enfin intéressant, même si c'est du convenu. Hein. On est loin d'être dans la nouveauté, mais je sais pas où va cette série. J'ai du mal à comprendre où elle va en fait.
La menace pour le moment est assez inconsistante. Faut avouer que bon, oui. c'est une méchante, mais alors qui va s'opposer aux Teen Titans? Ok, mais alors. Tout ça reste bien mystérieux, ce qui se passe chez Star Labs, on sait vraiment pas trop quoi.
Et comme tu l'as dit, le problème c'est qu'on a eu ce mois Futures End. Pour ma part, je n'ai pas lu le numéro spécial Futures End parce que j'en ai absolument rien à foutre.
Moi non plus.
Je vais être honnête, Futures End me fait chier, donc voilà. Enfin, le mois Futures End m'a fait chier, donc voilà. J'allais pas lire une série où déjà je me demande si je vais continuer. J'allais pas lire ce numéro qui ne servait à rien. Donc je sais pas s'il y avait des pistes à l'intérieur. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais j'ai pas l'intention de le lire. Je le lirai que si vraiment c'était important pour la suite. Mais là, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, et ces deux mois, finalement, entre les séries, en fait, est-ce que ça m'a manqué le mois dernier? Non. C'est ça le truc.
Non, c'est un peu, je l'ai eu sur ma pile de comics, je me dis, ah tiens, c'est sorti cette semaine. Ah oui, c'est vrai, je suis cette série. Mais c'est toujours pas...
Je l'ai lu à défaut d'autre chose, hein, honnêtement.
Il y a vraiment des trucs bien. Moi, j'aime vraiment bien Beast Boy et Bunker. J'ai trouvé attachant. Je trouve que c'est les personnages les plus attachants du comics. Les autres, ils sont vraiment très mécaniques, quoi, dans leurs actes. Raven est à peine effleurée. Red Robin, c'est Red Robin sérieux.
Ça l'arrange qu'on la touche pas pour une emo goth. Hein. On n'aime pas être touché quand on est emo et goth, hein, à la fois.
Oui, c'est ça. Voilà. Après, graphiquement, c'est sympa. Bon, il y a le parti pris Kenneth Rocafort. Je sais que c'est un dessinateur qui plaît pas à tout le monde.
Non, moi, j'aime bien.
C'est plutôt réussi hein, dans son style. Donc, c'est assez beau. Donc, voilà, moi, je vais continuer quand même. Quelques mois, au moins, 2-3 mois.
Ouais, comme toi, je vais aller jusqu'à la fin de l'arc. Allez, check it plus pour moi.
Ouais, un bon check-it quand même, parce que ça reste, comme les numéros 1 et 2, ça reste quand même pas mal, je pense.
Mais c'est sympathique à lire, mais ça va pas plus loin que ça. Mmh. Voilà, c'est juste sympathique à lire, quoi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, pour moi, hein, c'est mon avis perso. Continuons avec toi, Benny, il s'agit du Justice League numéro 35.
Avec un très bon épisode, qui aurait pu être mon coup de cœur, limite, s'il n'y avait pas eu Superior Foes of Spider-Man. Donc, c'est par Jeff Jones hein, au scénario, et puis Doon Menke et Ivan Reis au dessin. Partie graphique déjà c'est plus que correct. Et alors on a au fait cet épisode où Bruce Wayne s'infiltre chez LexCorp, Au fait, il est, il veut, comment dire, faire copain-copain avec Lex Luthor pour découvrir ses sombres secrets et un petit peu ce qu'il cache. Et donc, il met la Justice League sur le coup pour le surveiller en même temps. Et dès qu'il repère un truc litigieux qui pourrait mettre Lex Luthor dans l'embarras et qui pourrait justifier son arrestation, il demande à la Justice League d'intervenir. Donc, il est un petit peu en mission infiltration, Bruce Wayne. Et alors c'est très drôle parce que ils ont une conférence de presse et alors on voit qui est le meilleur en communication entre Lex Luthor et Bruce Wayne. Il y a une espèce de jeu comme ça de manipulation un petit peu des médias. Alors Bruce Wayne il va de sa petite anecdote, l'alarme à l'œil, etc. Et puis du coup les médias retiennent plus ce qu'a dit Bruce Wayne que Lex Luthor durant cette conférence. C'est assez marrant. Et puis il y a la visite donc des labos secrets de Lex Luthor par Bruce Wayne qui est assez marrante. Donc en fait c'est un épisode de avec beaucoup de dialogue, finalement assez peu d'action, mais c'est pas plus mal. Où il y a donc une espèce de confrontation psychologique, on va dire, entre Lex Luthor et Bruce Wayne. Et puis bon, bah on a ce final qui nous amène sur cet arc donc de Amazovirus, qui est vraiment pas mal. Moi, ça m'a donné envie de lire la suite. Non, franchement, très très bon épisode. Là, c'est du Jeff Jones en forme. Décidément, moi j'aime bien l'alchimie entre Bruce et Lex Luthor. Là, ça tombe bien puisque là, c'était vraiment un épisode 100% là-dessus.
C'est très marrant parce que j'étais très déçu du 34 et un peu des précédents numéros. Et du coup, j'avais arrêté Justice League ce mois-ci.
Ouais,
et du coup,
c'est
dommage envie de le reprendre. C'est vraiment en dents de scie, cette série. Mais c'est vrai qu'après, il y a Jason Fabok à partir du mois prochain, ça donne envie d'y retourner quand même.
Non, mais il y a de bonnes choses. Ça dépend. Ça dépend franchement des arcs. Mais cet arc-là, je le sens bon. Je le sens bien, je veux dire.
Bah, c'est à l'image de son scénariste, hein, en dents de scie. Jeff Jones nous habitue à du dents de scie maintenant depuis les New 52, quoi. Un bon épisode, un mauvais, un bon arc, un complètement à chier, c'est un peu ça, quoi. Et je parle pas que de Justice League, je parle dans l'ensemble. C'est un peu bizarre, mais enfin bon, on s'y habitue au bout d'un moment, voilà. On va passer à la suite, il s'agit de Batwoman numéro 35. Alors j'ai été lire Batwoman numéro 35, une série que je ne suis pas habituellement, donc vous avouer que j'étais complètement perdu. J'avais vu un petit peu la com faite sur cette série, c'est pour ça que j'y suis allé. Puisqu'il s'agit de Marc Andreyko au scénario et George Genty au dessin, une équipe que j'avais beaucoup aimée sur Manhunter à l'époque. Manhunter, pas le Martien Manhunter, la série Manhunter. Et du coup, j'avais envie d'aller voir ce que ça donnait. Et en plus, on nous promettait un gros changement. Alors, j'ai rien pigé, honnêtement. Batwoman est en équipe, elle est dans l'espace. Elle travaille pour Star Labs. Elle doit aller chercher Morgan Le Fay. Enfin, l'empêcher d'avoir... Alors, je sais, j'ai dû rater des trucs. Hein. Enfin, j'ai raté
celle
des
de
trucs,
Marvel
vraiment, puisque... Non, Morgan Le Fay, version DC.
D'accord.
Elle le fait bien.
Et donc elle essaye de récupérer un cristal, Morgan Le Fay, dans l'espace, à côté de la station spatiale internationale, je crois. Je suis en train de vérifier, ça va être ça. Et qui lui permettra de pouvoir recréer un Camelot à notre époque et de régner sur le monde. Et donc Batwoman est partie dans l'espace accompagnée de Ragman, de Etrigan et de Clayface. Et d'une autre version d'elle-même que j'ai pas très bien compris de sa sœur.
Oui, j'ai vu cette équipe. Oui, c'est les Gardiens de la Galaxie, quoi, version DC.
The Unknowns, il s'appelle. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, elle doit l'en empêcher dans l'espace et elle n'est pas du tout à sa place. Elle ne se sent pas du tout à sa place. C'est quand même franchement très plaisant, même si j'ai moitié rien compris. Je dois avouer que j'ai passé un bon moment. C'est plutôt pas mal écrit. On arrive à rentrer dedans quand même. Il y a certains éléments qui nous échappent, hein, clairement.
Tu nous as résumé le truc, enfin je sais pas, c'était clair ce que tu nous as raconté. Là.
Oui, mais enfin, il y a un personnage, je sais pas, il parle de la sœur de Batwoman, comme je n'ai pas suivi la série, je ne comprends rien, quoi.
C'est vieux, la sœur de Batwoman.
Ah, mais je n'ai pas suivi la série du tout, hein, donc clairement. J'y suis vraiment allé pour l'équipe, là, j'y suis allé pour Andreyko et Genty à nouveau en tandem, quoi.
Et pour les Unknown.
Et pour les Unknown aussi, pour voir cette équipe de ouf dans l'espace, Batwoman dans l'espace, avec des gens comme Clayface et Etrigan et Ragman, je me disais ça pouvait être que bizarre. Effectivement, c'est bizarre, mais c'est bien écrit, c'est bien rythmé. Je suis arrivé à la fin de l'épisode et je me disais putain merde déjà quoi, j'avais envie d'aller lire la suite.
À mon avis, c'est une équipe qui va rester. Hein. À mon avis, enfin l'équipe de The Unknown, on va la revoir à mon avis.
C'est tout à fait possible puisqu'il risque d'arriver des choses assez intéressantes. Enfin, en tout cas, si on en croit l'histoire des comics, parce que la scène finale, c'est quand même le Uncanny X-Men 101 pour ceux qui s'en rappelleront. Voilà, je vous laisse réfléchir. Ça vous permettra de soit faire des recherches, soit vous savez de quoi on parle, mais je vis de trop spoiler. Enfin, je me doute qu'il va se passer un truc comme ça, quoi.
Ce sera l'occasion de retrouver le Locketeux en VF. Voilà, dans, dans Batman, je sais pas combien, volume 5 ou 6. Ouais.
Bah, en tout cas, ouais, un bon moment, hein. Franchement, je vais mettre qu'un check-it de plus parce que je vous avoue, j'ai pas tout compris. Je dois avouer que je suis quand même allé vite fait regarder le 34 et il n'était pas fait mention de cette équipe. C'était pas du tout ça. J'ai regardé vite fait Future End. C'était pas du tout ça non plus. Donc j'ai pas compris d'où ça vient. Mais c'est pas grave, honnêtement. J'ai l'impression qu'on débarque en plein milieu d'un truc. Mais c'est lisible quand même, hein. Honnêtement, je n'ai pas suivi la série, je l'ai lu et j'ai quand même compris l'ensemble. Donc,
Il paraît qu'il a développé des trucs assez sympas, André Hico, depuis ben, presque un an et demi, presque deux ans d'ailleurs. Au moins un an et demi qu'il est sur le titre, qui a développé des trucs pas mal. Effectivement, oui, c'est la cover où il y a marqué Who Are the Unknowns, c'est ça ou,
c'est ça.
Oui, c'est une cover assez what the fuck où, qui nous donnait envie d'aller voir. J'irai peut-être voir ce run, il paraît que c'est pas si mal du tout.
Donc en tout cas, un bon check-it plus pour ce numéro. Et on va continuer sur notre lancée avec une nouveauté cette semaine. Il s'agit de Trinity of Sin numéro 1, Bruno. Bah, forcément, oui. C'est Bruno qui a lu. Hein.
Et oui, Trinity of Sin avec JM de Matteis au scénario et Yvel Guichet au dessin. Des personnages que j'ai suivis dans leurs séries respectives, que ce soit le Phantom Stranger ou Pandora. Des séries qui se sont arrêtées et qui ont été... se sont terminés un petit peu dans la médiocrité la plus générale.
Ah, normal, il restait un lecteur, toi.
Non, je crois qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, Trinity of Sin, le postulat, c'est d'avoir enfin le trio, à savoir The Question, Pandora et Phantom Stranger dans un même titre. Et ce premier numéro est une belle bouse. C'était vraiment, vraiment tout pourri.
Ça trash.
Alors, donc, ça commence avec des petites explications sur The Question. Voilà, on voit qu'il mène une vie un peu où il ment aux personnes qu'il côtoie. Et tout d'un coup, là, de on ne sait où, il y a une créature qui arrive hyper pas originale, une sorte de Balrog qui vient lui foutre une mandale dans la tronche.
Balrog, qu'est-ce qu'il vient foutre là?
Non, pas Balrog de Street Fighter, hein, le Balrog du Seigneur des Anneaux.
Oui, non, mais
le Balrog de la Moria.
Moi, je pensais que c'était Balrog de Street Fighter. Assez gants de boxe. Qu'est-ce que tu dis, lui fout une mandale, donc ouais, tu sais, j'imaginais un black arriver avec des gants de boxe.
Alors après, en parallèle, tu as
KO.
Tu as Phantom Stranger qui est avec son pote Dr. 13 et hop, tout d'un coup, une nouvelle menace qui arrive. Et alors là, c'est pas du tout original non plus. C'est une femme avec une tête de serpent. Ouais, c'est super moche. Voilà, bagarre, bagarre. Et après, on a On a Pandora.
Une femme à tête de serpent. Bruno trouve ça moche. Un requin alien. Bruno trouve ça badass. Chercher.
Ouais, mais là, c'est vraiment pas top, quoi. Et après, on a Pandora qui se la coule douce sur une plage en Inde. Et tout d'un coup, il y a une sorte de vague vivante qui arrive et qui veut faire un tsunami. Oh, je suis méchant, je veux t'attaquer. Et tout, voilà. Et donc, elle se transforme avec ses petits flingues, là. Elle fait de la pyrotechnie, là. Piu, 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 piu. Et c'est un peu tout pourri. Et en fait.
Je plains tes futurs enfants quand tu vas leur raconter des histoires le soir si tu racontes les histoires comme ça.
Et donc en fait les trois monstres qui s'attaquent justement à la trinité de péché ont été envoyés par la même menace, un truc assez mystérieux qui a un look tout pourri façon Inca, Quetzalcoatl, mes fesses. C'est tout naze. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très mauvais. Et alors les dessins, c'est vraiment du bof, quoi.
Donc, mais c'est dommage parce que JM DeMatteis avant il était bon, quoi, quand il y avait un truc de JM DeMatteis.
Sur Justice League Dark, je trouve pas, enfin je lis sporadiquement, mais j'avais lu quelques numéros de lui sur Justice League Dark et c'était pas mal. C'était pas mal,
bah
sur
là,
Justice
League Dark. Là c'est vraiment
il
très
bien
rien,
Constantine et tout.
Et surtout en fait en tant que numéro 1, je trouve que c'est pas du tout sexy et ça donne vraiment
pas
envie.
Je pense
de...
que c'est surtout ces personnages qui sont pourris, quoi. Franchement, faut arrêter.
Ah, il y avait du potentiel à la base, mais c'est un potentiel gâché complètement. Moi, j'ai encore ce souvenir de ce Free Comic Book Day, voilà, qu'on avait eu là, des New 52, qui était assez magique.
C'était nul.
Non, c'était magnifique. C'était magnifique avec les dessins d'Ivan Reis,
c'était
et tout, plein de mystères et tout, et voilà, on nous teasait des choses par rapport à peut-être The Question, qui il était et tout, et c'était vachement intéressant.
C'était
et,
nul.
Et après, c'est devenu vraiment, vraiment tout grave. Donc, clairement, passez votre chemin. Pour moi, c'est un pass, hein, ce numéro 1.
Ah ouais, carrément un pass.
Yes.
Bruno you met un pass à lui baisser, en plus contenant pass. Question, Phantom Stranger et Pandora. Ouh là là, mais que se passe-t-il?
Demain, le soleil ne se lève pas. Hein.
Non, disons que je suis très déçu par les derniers numéro 1 qu'on a eu là récemment, parce que, pareil, la semaine dernière, j'étais pas présent, mais j'ai lu Clarion numéro 1, et c'était super chiant aussi.
Mais attends, je veux dire, faut être con aussi, quoi. Excuse-moi.
Non, il y a eu des très bonnes reviews sur Clarion numéro 1, j'ai été étonné.
Bah, je sais pas si tu l'as lu, Flo, mais
je l'ai pas lu, mais j'ai lu de très très bonnes reviews sur des sites assez sérieux.
Franchement, c'est quand on est vraiment fanboy DC, parce que c'était
comme Comics Place. J'ai trashé.
C'est quand même, moi j'ai trouvé ça super relou. Alors autant par exemple le relaunch entre guillemets de Batgirl, là j'étais d'accord avec toi, Flo, c'était vraiment très bien. Autant que ce soit Trinity of Sin, Clarion, je sais plus ce qu'on a eu d'autre récemment, Lobo, alors là cette merde, Lobo. Oh là là, vraiment ça. Et puis j'ai peur pour Deathstroke aussi là qui va arriver. C'était quoi Suicide Squad, c'est tout pourri aussi. Donc là je suis vraiment déçu par ces nouveaux titres d'essai qui sont pour moi vraiment pas terribles.
Mais redonner un titre Amazing Spider-Man à JM DeMatteis, remettez Mark Bagley dessus, ça c'était classe.
Bah ouais.
Oh putain, Benny est silencieux, ça me fait peur.
Non, je lis le message que t'as mis sur Skype et je ne sais pas au fait de quoi il s'agit, donc j'avais de drôles d'images en tête.
Non mais voilà, on va expliquer maintenant, hein, voilà, c'est fait à l'audio, donc on va expliquer. Juste avant la review de Teen Titans, c'est pour ça peut-être que je paraissais un peu perturbé. Juste avant de prendre la parole, j'ai mon mug de café plein qui s'est renversé un peu partout, sur la table de mixage, sur le clavier, par terre, sur mon téléphone, il y en avait partout, donc c'était un peu tendu, j'ai essayé de réparer mes conneries le plus vite possible, voilà.
Bravo.
Je disais que c'était enfin fini. Bravo. Bref, nous, ça n'avait aucun intérêt. Flo, on va passer à toi pour la dernière review de la semaine. Il s'agit de Earth 2 World's End numéro 2.
Oui, excusez-moi, j'ai mon chat qui essaie de lécher mon comics. Je le viens
de voir.
Peut-être t'aurais dû m'envoyer ton chat, elle aurait réparé mes conneries par terre.
Sur la page des crédits en plus. Avec une histoire de Daniel H. Wilson, un script de Daniel H. Wilson, Marguerite Bennett et Mike Johnson, et des dessins notamment de Eddie Barrows, Tyler Kirkham, Paolo Siqueira et Jorge Jiménez avec différents encreurs et des breakdowns de Scott McDaniel. Bon, autant le numéro 1, je trouvais que c'était un bon récap de Earth 2 et ça a lancé un petit peu des trucs. C'était un petit peu vraiment la continuation de Earth 2. Ce numéro 2, il y a vraiment à boire et à manger. Hein. On avait vu l'arrivée de Fury, une lieutenant d'Apocalypse, une genre de Tamaranian, une cousine de Starfire, quoi, en mode plutôt tomboy. Un
badass.
Peu. Tomboy avec une grosse hache et une épée, un look pas génial, qui est en pleine à Genève, ben, qui retrouve en fait notre équipe de Earth 2 qu'on a vu la semaine dernière. Avec le nouveau Superman, le nouveau Green Lantern, Batman, Huntress, Red Tornado et Wonder Girl. Et Power Girl, pardon, excusez-moi. Et cette confrontation va être très 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 chiante. Ça sera la partie la plus chiante du comics parce que c'est juste de la baston avec une méchante qui arrive à maîtriser tous ses super-héros et ensuite à les contrôler, de contrôler leur psyché pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Enfin, c'est pas très très original, très honnêtement.
J'ai jamais vu ça ailleurs. Hein.
C'est vraiment pas original. Puis les dialogues sont très bof. Et une autre confrontation. Ensuite, on retrouve vraiment tout notre cast. Hein. On retrouve Hawkgirl qui continue à suivre Dr. Fate, mais on n'en sait pas plus pour le moment. J'espère que ça va continuer parce que c'est ce qui est presque le plus intéressant. Green Lantern qui va aller voir sous terre si j'y suis et si le parlement des différents avatars y sont. Et puis.
Maintenant, j'imagine Flo, tu sais, sous terre.
Une intrigue avec Terry Sloan, Mr. Terrific et Mr. Miracle qui arrivent, voilà, qui sont sur le point d'essayer de s'en sortir face à Bedlam, là, ce lieutenant d'Apocalypse. Et donc du coup, l'histoire avance. C'est vraiment la continuation de Earth 2 toujours, mais niveau écriture, c'est pas génial, honnêtement. Disons, Earth 2, c'était du gros blockbuster qui défonçait tout, et c'était très bien fait. Et la différence est mince entre un truc bourrin qui est bien fait et un truc bourrin qui sonne creux en fait, et c'est là où c'est compliqué. Dans Earth 2 ça passait super bien, c'était un page turner. Là honnêtement les dialogues sont pas super intéressants, ça me fait penser à des comics des années 90, un peu con, un peu bourrin. ça m'a pas vraiment, je suis déçu, je pensais pas que ça allait tourner comme ça, parce qu'en plus il y a des, je pense qu'il y a trop de personnages en fait, il y a trop de personnages, il y a des intrigues intéressantes, mais par exemple la grosse confrontation qui est le centre du comics avec Fury et qui fait la couverture là, est pas du tout intéressante et c'est, ne sert vraiment à rien quoi. Alors qu'il y a des trucs avec la folie de Dr. Fate, la World Army et tout, qui sont vraiment intéressants. Et j'aimerais plutôt voir ça. Donc j'espère que dans la série Earth 2, qui continue en mensuel, on va voir ça. Et j'espère que dans les prochaines semaines, ça va bien continuer, parce que là, c'est mal parti. Donc c'est vraiment un tout petit check-it, ce numéro 2 de World's End. Et j'espère que ça va remonter. Mais pour le moment, ça commence pas très fort pour moi.
Mais ouais, mais je vais être honnête, je ne l'ai pas lu, donc je donne un avis qui est pas du tout objectif. Mais vu les gens qu'il y a dessus, franchement, Mike Johnson, Marguerite Bennett et je me rappelle plus le troisième.
Daniel H. Wilson, c'est un romancier à succès d'ailleurs.
Oui, certes, mais t'as beau être romancier, t'es pas forcément bon auteur de BD, quoi.
Non, mais c'est son premier travail, je crois, hein, en comics.
Bah voilà, combiné au fait que c'est la troisième série hebdo. Bah, ça fait peut-être trop, quoi. Ça fait peut-être trop. Les meilleurs talents étaient déjà occupés ailleurs, et donc, du coup, on a mis les seconds couteaux, voilà. C'est peut-être de là que vient le problème de Earth 2 World's End. Maintenant, comme je dis, je ne l'ai pas lu, donc c'est un avis qui ne vaut que ce qu'il vaut.
Après, voilà, il y a toujours plein de potentiel, comme pour Earth 2. Voilà, c'est une série vraiment qui est haletante, et ça, on sent que le rythme est très... Ça a le même rythme que Earth 2, quoi, mais en version hebdomadaire. Donc ça pète de partout et ça avance, quoi. Donc ça peut potentiellement se retourner d'une semaine à l'autre. Ça peut être bien.
Mais c'est Tom Taylor qui aurait dû être dessus et pas d'autres personnes.
Bah ouais, moi je trouve ça dommage. Et après visuellement aussi, les dessins sont, c'est bien. Il y a trois dessinateurs, mais honnêtement, Eddie Barrows, Tyler Kirkham, Paolo Sicchiara, c'est des bons. Donc c'est très sympa visuellement, quoi. Donc voilà, un petit check-it, je continue encore quelques semaines, et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est très moyen.
Ouais, ce ne sera pas ta lecture d'entrée de pile chaque semaine, quoi.
Mais surtout, tu nous tiens au courant. Hein.
Oui.
Parce que là, on est tendu jusque-là. Hein. Vraiment, on va être pendu à tes lèvres.
On ne dira pas lesquels.
Oh...
Oui, non, mais pas de réaction, ça me faisait peur. Franchement, j'ai cru que vous étiez morts tous.
On est encore là.
Ça fait très peur. On termine avec les TP d'essai de la semaine. On va démarrer avec du Vertigo Hellblazer TP volume 9.
Nice.
Et sorti cette semaine.
Yes.
Ressorti de ces Hellblazer anciennes formules, l'époque Vertigo, du Eddie Campbell, du Sean Phillips, du Tommy Lee Edwards. Ce sont les épisodes 84 à 96 de la série Hellblazer, cite au prix de $20.
Ouais, et début du run de Paul Jenkins qui n'avait jamais été rassemblé dans des TP. Donc un tome très attendu de mon côté en tout cas, puisque je prends la suite de cette magnifique série de TP pas cher et génial que je vous conseille. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je fais mon speech pour vous dire de les acheter.
Le TP qui va vous faire prendre une semaine entière de congé, il s'agit de Justice League 3000 en TP. Le volume 1 Yesterday Lives qui sort au prix de $17 puisqu'il contient les 7 premiers épisodes de la série. Donc autant dire qu'il vous faut une semaine de congé, hein, clairement, pour lire tout ça. On va terminer avec du TP digital. Nous avons Adventures of Superman, le deuxième TP qui sort, avec les épisodes 6 à 10, les versions papier, hein, quand on parle d'épisodes 6 à 10 de cette série digitale au départ, pour $15. Et puis vous avez aussi le Batman 66 qui sort pour son premier TP au prix de $15 à l'occasion de la sortie du deuxième hardcover qui va comprendre les épisodes 6 à 10 de la série compilé en papier, là encore, au prix de $20 pour du hardcover, c'est pas excessif. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait chez DC, le reste sortant en français, bien sûr, on ne le mentionne pas, comme toujours. Voilà, c'est tout pour cette émission. Il y avait quand même énormément de choses cette semaine,
hein.
Et encore, on n'a pas tout lu, hein. On aurait pu parler des tie-in d'Axis comme Magneto ou Loki, Agent of Asgard, on aurait pu parler d'autres séries DC, hein. Il y en avait d'autres cette semaine.
Oui.
Oui, il y avait Miss Marvel aussi qui sortait.
New Avengers, il y avait les Deadly Class et autres compagnies.
Il y avait le fameux Skylanders que personne n'a traité, je suis fortement déçu.
Ouais, on a quand même fait 23 chroniques. Quoi.
C'est quand même
mais où est votre âme d'enfant? Où est votre âme d'enfant? Elle est perdue à jamais.
Moi je suis contre les Skylanders.
Le mec est contre, tu sais. Juste, voilà, je suis contre. Enfin, c'est... un avis tranché, s'il en est.
Exactement.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose de review VO. En début de semaine, vous retrouverez aussi le Comic City sur le site.
Très bon Comic City que j'ai écouté en live hier soir.
Oui, oui.
Puisque forcément, c'était hier soir.
C'était hier soir, et oui, sur synopslive.net, évidemment, à partir de 21h jusqu'à minuit, évidemment. Mais c'est, on fait de la promo pour quelque chose qui est déjà passé, c'est bête, c'est ouf.
On ne dira, dira pas qu'il y a eu un gros plantage technique.
Voilà. Je te jure que si tu me portes la poisse, mec.
Il te tape.
Tu fais quoi? Tu fais quoi?
Il te tape, tu fais quoi?
Tu fais quoi?
Je ne peux pas le dire à l'antenne car il y a des oreilles sûrement chastes qui nous écoutent. Bref, tout ça pour dire que vous le retrouverez mardi sur le site, hein, le Comic City 93, celui du mois d'octobre. Et puis, bien évidemment, mercredi, vous retrouverez le Weekly News numéro 108 en direct sur Synops Live, votre émission d'actu sur les comics et leurs dérivés, évidemment.
Non, je ne connais pas, je vais écouter.
D'ici là, comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Twitter qui vous permet aussi de réagir aux émissions en direct. C'est cool, une très belle interaction avec, avec les auditeurs.
Super
cool.
Très, très ça sert à ça. Ça sert à ça, Twitter. Ok, d'accord.
T'as, le mec a décidé de faire chier en fait en fin d'émission, juste comme ça.
Ah,
juste pour le fun. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Coucou à tous.
Caca.
Coucou.
Caca. And you're heading up to Wreck and Brisbane.